Les médias sont contrôlés pour une partie, soit par la pub, soit par les mêmes groupes. Donc ça monte aussi des fois un problème d'indépendance.
Radio Courtoisie.
Indépendance totale.
7h, 10h sur Radio Courtoisie. Ligne droite avec Alexandre de Galzin.
Bonjour à tous, chers auditeurs. C'est un plaisir de vous retrouver ce matin en ce 26 mars. Aujourd'hui, belle émission en perspective. Je suis accompagné de l'équipe du matin, à commencer par Maïlys Clozel, Magda Dautefeuille et Arnaud. Bonjour Arnaud.
Bonjour à tous, bonjour Alexandre.
Alors aujourd'hui, plusieurs sujets pour essayer de revenir un petit peu sur toute l'actualité. Vous savez que on aime bien faire ça. Le jeudi, on commence avec les municipales. Nous serons rejoints par Philippe Poirier. Philippe Poirier, avec qui nous essaierons de répondre à cette question. Est-ce que tous les partis ont perdu? Et puis ensuite, à 7h25, pour le grand entretien, nous parlerons de Lionel Jospin, la mort d'un fossoyeur de la France. Nous reviendrons un petit peu sur sa personnalité et son bilan désastreux. Et puis, parmi toutes les chroniques, à 8h20, Maïlys Clozel animera un entretien sur la Suède qui essaye de devenir peut-être un modèle de remigration. Et puis enfin, à 9h05, comme tous les jeudis, ce sera Jean Messia qui sera avec nous. Mais on va commencer cet entretien, enfin cette matinale, pardon, chers auditeurs, par un petit retour sur l'actualité avec Maïlys Clozel.
Bonjour Alexandre et bonjour à tous nos auditeurs. Alors Yaël Braun-Pivet nous en fait voir de toutes les couleurs. La présidente de l'Assemblée nationale déclarait hier sur Sud Radio estimer que la minute de silence rendue à Quentin de Ranc à l'Assemblée nationale est, je cite, « regrettable compte tenu du personnage ». Une notion de personnage qui interroge tant elle n'était pas curieusement revenue sur l'hommage rendu dans l'hémicycle au personnage de Naël Merzouk, tué le 27 juin 2023 lors d'un refus d'obtempérer, qui n'avait pourtant rien d'un petit ange, comme se lamentait Kylian Mbappé au moment des faits, puisque le jeune délinquant était surtout connu des services de police pour ses multiples infractions. Comme d'habitude, lorsque le sujet penche un peu trop à droite, le pouvoir se montre intransigeant, quitte à tomber dans l'indécence en expliquant qu'un hommage à un mort ne serait pas mérité. A l'inverse, il se montre bien plus complaisant lorsque la victime appartient à une prétendue minorité. On commence à en avoir l'habitude, sans parler du tollé monumental qu'il y aurait eu si l'on s'était indigné de l'hommage rendu au trotskiste Lionel Jospin. En attendant, écoutons la brillante intervention de celle qui tient les rênes de l'Assemblée.
Nous l'avons faite. Maintenant, effectivement, lorsqu'on regarde le profil de Quentin de Ranc, effectivement, si on avait su à ce moment-là qu'il avait ce profil-là, je pense que probablement que la décision n'aurait pas été la même. Voilà. Et que nous ne l'aurions pas faite, en tout cas, effectivement. Je pense qu'aujourd'hui, on peut regretter d'avoir eu cette minute de silence, compte tenu du personnage.
C'était Yaël Braun-Pivet qui livrait sur un plateau son deux poids, deux mesures assumées.
Voilà, et vous avez des nouvelles de l'affaire Thomas et de cette justice qui manque de clairvoyance.
Bah oui Alexandre, plus de 2 ans après la mort de Thomas Perrotto, l'affaire de Crépol continue d'agiter la toile, y compris sur le terrain judiciaire. Hier, la cour d'appel de Grenoble a une nouvelle fois refusé que la Griffe se constitue partie civile. En clair, les juges estiment que cette association ne peut pas parler au nom des victimes sans leur accord explicite, comme si elles allaient se montrer contre après avoir perdu un proche. Derrière cette décision, il y a eu aussi un point central. À ce stade, la justice ne retient toujours pas de mobile raciste dans ce dossier, malgré les débats et les témoignages évoquant ses propos anti-blancs, tels que, je cite, « on est venu planter du blanc ». Mais pour la Griffe, la bataille ne s'arrête pas là, puisque l'association considère que les jeunes présents au bal ont été visés en tant que groupe et veut continuer à faire reconnaître une dimension raciale. Dans ce drame, elle annonce donc un nouveau pourvoi en cassation. Et pendant ce temps, les juges s'en tiennent à une autre lecture des faits, celle d'une bagarre qui a dégénéré dans un contexte d'alcool, de tension et de provocation. On est encore une fois déçus, mais pas surpris. Espérons que le verdict du procès en cassation reconnaisse le racisme anti-blanc évident.
Et puis coup de tonnerre dans le paysage médiatique et musical.
Oui, tout à fait. Le rappeur Gims, de son vrai nom Gandhi Juna, né à Kinshasa en République démocratique du Congo, a été placé en garde à vue hier à son arrivée à l'aéroport de Roissy. L'artiste, souvent adulé par ses jeunes adolescents adeptes de reprises musicales sur TikTok, est entendu dans une affaire de blanchiment en bande organisée. Derrière l'image lisse du chanteur aux millions d'albums vendus, la justice s'intéresse désormais à ses activités économiques, notamment autour de montages financiers internationaux et d'un projet immobilier de luxe au Maroc. L'enquête pilotée par le parquet national anticriminalité organisée vise un système structuré de fraude et de dissimulation de fonds, impliquant d'anciens trafiquants reconvertis dans la finance occulte. Et à ce stade, Gims bénéficie de la présomption d'innocence. Mais nul doute que c'est une affaire explosive qui pourrait bien fissurer l'image d'un artiste devenu l'un des symboles les plus visibles de la pop moderne au vocabulaire limité.
Et puis, bonne nouvelle, un réseau clé du trafic de migrants dans la Manche a été démantelé.
Oui, une fois n'est pas coutume, Alexandre, une opération coordonnée par Europol avec la France et plusieurs pays européens a permis l'arrestation de 17 passeurs hier. Il s'agit d'un réseau criminel organisé qui fournissait bateaux et matériel aux passeurs opérant depuis les côtes françaises, alimentant un trafic extrêmement lucratif, pouvant générer jusqu'à 100 000 euros par traversée, donc c'est dire. Et dans le même temps, un contraste frappant intervient. L'ancien directeur de Frontex, Fabrice Leggeri, aujourd'hui eurodéputé RN, est visé par une enquête pour complicité de crimes contre l'humanité. En cause, la politique de fermeté aux frontières qu'il incarnait. C'est dommage qu'on n'en ait pas vu les bénéfices. Il est bien fait.
Et puis, pour le sport, on mêle art japonais et Formule 1, Maëlys.
Effectivement, c'est assez atypique aujourd'hui. Alors que le Grand Prix du Japon est sur le point de débuter, le pilote français Pierre Gasly s'élancera sur la piste à Suzuka avec un casque inspiré du Kintsugi, l'art japonais qui sublime les fissures avec de l'or. Sa manière de traduire, selon ses mots, son admiration pour le pays du soleil levant. Un choix élégant et symbolique à l'image d'un pilote qui annonce la couleur et met en avant sa rage de vaincre. De quoi aborder le Grand Prix avec style et ambition.
Et puis, qu'est-ce qui se passe dans le ciel ?
Eh bien, aujourd'hui, le ciel alterne entre nuages et éclaircies, avec encore quelques giboulées entre le nord et l'est du pays. Côté température, elle reste en dessous des normales de saison. Nous attendons pour les maximales de 6 à 16 degrés du nord au sud, avec notamment 6 à Charleville-Mézières et 10 à Paris. Et nous célébrons ce 26 mars Sainte Larissa, martyre chrétienne morte en Crimée vers 375, et Saint Ludger.
Merci Maëlys.
Ligne droite.
Et désormais, nous passons au décryptage. Et le décryptage, c'est avec Magda Hautefeuille aujourd'hui. Bonjour Magda.
Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Le CLJ, le Centre européen pour le droit et la justice, a intégralement analysé le délit d'entrave à l'euthanasie. Elle démontre la dérive liberticide de l'aide à mourir. Puisque oui, le débat français sur l'aide à mourir, autrement dit l'euthanasie, ne porte pas seulement sur la fin de vie, il s'aventure sur le terrain de la liberté d'expression. Avec l'introduction d'un délit d'entrave à l'aide à mourir, le texte franchit un cap. Concrètement, il prévoit de sanctionner toute tentative d'empêcher une personne d'accéder à ce dispositif. Sur le papier, le but est d'éviter les pressions et de garantir que la décision soit libre, mais factuellement, où commence l'entrave et où s'arrête la dissuasion légitime. Parce que dans une situation de fin de vie, les échanges ne sont pas abstraits. Il y a des proches, des familles, des médecins, des doutes, des désaccords, des tentatives de convaincre, et c'est là que ça bascule. Le texte introduit une logique où certaines paroles peuvent devenir illégales. Exprimer un désaccord, insister pour une autre solution, essayer de dissuader, etc., peut donc potentiellement être interprété comme une pression. Autrement dit, ce qui relevait du dialogue peut, dans certains cas, basculer dans le pénal. Le CLJ le précise, la notion d'entrave n'est pas strictement délimitée et peut englober des formes ordinaires d'échange, y compris des tentatives sincères de dissuasion ou d'accompagnement. Deuxième point, la place de la famille. Alors, traditionnellement, dans les décisions de fin de vie, la famille joue un rôle central. Pas pour décider à la place de celui qui croit vouloir mourir, mais pour accompagner, discuter et parfois alerter. Or ici, le projet de loi tend à considérer ces liens comme des sources possibles d'influence problématique. Autrement dit, la proximité devient un facteur de suspicion, un facteur juridique. L'équilibre bascule donc parce que si la famille est perçue comme potentiellement intrusive, elle peut être écartée. Si elle insiste trop, mais qui détermine ce trop et comment, elle peut être accusée d'entrave. Ce sont précisément les proches les plus impliqués et les plus présents qui deviennent donc les premiers exposés à un risque juridique. Alors, de facto, la famille est poussée à la retenue, ou plutôt exclue préventivement. Par ailleurs, il y a le problème de la cohérence juridique. On crée un délit pour protéger une liberté individuelle, celle de recourir à l'aide à mourir. Mais en parallèle, on encadre fortement la possibilité de s'y opposer, même dans un cadre privé. Donc on protège une pseudo-liberté, en fait contrainte par un système de soins déséquilibré, en limitant une vraie liberté, celle de la fraternité. Enfin, l'idée est de sécuriser totalement le processus, éviter toute pression, toute manipulation. Mais dans la réalité, les situations de fin de vie sont bien plus complexes, humaines, souvent conflictuelles. Les émotions, les convictions, les désaccords font partie du processus. Combien de candidats à l'euthanasie se sont en fait ravisés ? Les exemples sont innombrables. À vouloir tout encadrer juridiquement, on judiciarise les simples relations humaines. À force de vouloir éliminer toute influence extérieure, on isole l'individu face au système médical ô combien contraignant. On en vient à surveiller et empêcher la parole elle-même. Finalement, ce qui ressort de ce débat, c'est que la loi ne se contente plus d'organiser un droit, elle veut encadrer la manière dont on peut en parler, y compris dans la sphère privée. Elle veut en fait bâillonner toute opposition, éliminer toute réflexion et transforme l'euthanasie en choix irréversible et même obligatoire.
Merci beaucoup Magda Dautefeuille.
Ligne droite. Debout les Français.
Pour ce premier entretien, j'ai le plaisir de recevoir Philippe Poirier, ici à Ligne Droite. Alors, Philippe Poirier, bonjour, nous allons évoquer avec vous cette question des élections municipales. Tous les partis prétendent avoir gagné, mais en fait, on se demande s'ils n'ont pas tous perdu. Alors, on va essayer de dresser un petit portrait durant ces 15 minutes qu'on a ensemble, de faire un petit peu le tour. Déjà, Philippe Poirier, première question. Est-ce que, selon vous, il y a quand même un vainqueur de ces élections municipales ?
Le vainqueur de ces élections municipales, ce sont les mouvements et les partis politiques qui ont doublé ou triplé leur présence dans les conseils municipaux. Et il y a en réalité trois types de vainqueurs. Le premier vainqueur, et que personne ne l'a souligné, ce sont les listes divers et divers droites, car ce sont elles qui ont gagné le plus d'élus dimanche dernier. C'était un record et c'est la première fois que les listes dites divers droites sont supérieures en nombre en termes de vainqueurs par rapport aux partis qui structurent la droite, les Républicains et puis le Rassemblement national lui-même. Deuxième élément, le Rassemblement national, et vous vous rappelez, nous avions retrouvé avant le premier tour, a enregistré un score historique, puisque, à mon décompte, il serait à environ à plus de 3200 conseillers municipaux, alors qu'il en avait que 800 en 2020, et il dépasse par fois deux son score historique de 1995. Mais il y a aussi un troisième type de vainqueur, c'est tout un tas de listes sans la référence partisane, des listes diverses. Hein. Et ces listes diverses sont très difficilement repérables d'un point sur un axe gauche-droite ou même de savoir ce qu'elles vont faire exactement. Donc, vous voyez, le scrutin municipal du premier et du deuxième tour est beaucoup plus complexe dans son analyse que les dirigeants des partis ont voulu bien le faire.
Alors, la question qui me vient immédiatement suite à votre début d'analyse, c'est que veut dire cette victoire du divers droite ? Est-ce que ça signifie qu'il y a une forme de ras-le-bol dans la population de la politisation de ces élections ou des partis politiques actuellement en place ? Est-ce que ça signifie aussi que le pays bascule à droite ? Quelles conséquences on peut en tirer ?
Alors, d'un point de vue des enquêtes sociologiques, qu'elles soient menées par nos collègues du CEVIPOF ou qu'elles soient nommées au niveau européen, le European Value Study, il y a une droitisation de la société française depuis une petite dizaine d'années sur des thèmes classiques, sur l'autorité, la liberté économique, sur la sécurité, sur l'immigration, sur l'identité. Mais les listes divers droites montrent surtout quoi ? Que beaucoup d'élus, et surtout des électeurs, ont de moins en moins de rapports, d'obéissance ou de structuration à travers les partis politiques. Les municipales révèlent une nouvelle fois que les partis politiques ne maîtrisent plus l'agenda politique des électeurs et des électrices. Il y a une désaffiliation partisane qui s'amplifie. Alors là, elle se montre désormais au niveau des élus. Beaucoup d'élus ont choisi de partir sous l'étiquette divers droite parce qu'ils considèrent à juste titre parfois, que c'est un handicap d'être affilié à un parti politique. Et donc, les partis politiques qui auraient réclamé la victoire dimanche dernier en disant « voilà, nous avons, par exemple, les dirigeants du parti Les Républicains » se trompent lourdement. Nous n'avons jamais eu autant de listes autonomes de cette structure-là et des autres partis structurant notamment le centre-droit. C'est ça que ça signifie, la désaffiliation partisane de l'électorat et des élus au niveau local.
Et autre point qui est un petit peu lié, je pense, à celui que vous évoquez, c'est l'abstention qui reste tout de même assez forte dans une élection qui est tout de même réputée pour mobiliser énormément de Français. Est-ce que ça traduit une forme de lassitude, même sur le plan municipal ?
Alors, la démocratie locale était le dernier niveau où, il est vrai, un taux de participation était plutôt élevé, mais cela ne faisait que diminuer depuis déjà le début des années 2000, avec une amplification spécifique avec la période du Covid. Ce taux de participation, qui quand même est très faible, un Français sur deux ne se sont pas déplacés ni au premier ni au second tour. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie trois choses. Premièrement, le processus d'indifférenciation du politique par une large part de la société. Une partie de la société, de nos compatriotes, ne vivent plus, ne s'inscrivent plus dans aucun schéma politique. La deuxième chose, c'est aussi la difficulté de compréhension des nouvelles règles du scrutin. Dans beaucoup de communes, l'absence de panachage a sans doute perturbé beaucoup d'électeurs et d'électrices. Et puis, il y a une troisième chose, c'est que n'oublions pas que l'abstention a une signification aussi politique, c'est-à-dire qu'ils ne se sont pas retrouvés dans l'offre politique présentée par tous les partis, de la droite jusqu'à la gauche, et donc ils sont restés chez eux comme à d'autres scrutins. Donc ça doit interpeller non seulement les élus au niveau de la démocratie locale, mais de manière générale, toutes les formations politiques. D'autant plus qu'il ne faut pas oublier que notre système démocratique s'est surtout développé et, j'allais dire, arc-bouté sur le phénomène communal depuis notamment le début de la Troisième République. Donc c'est une transformation majeure, cette abstention au niveau de la démocratie locale.
Par-delà cette question de l'abstention, revenons un petit peu sur les partis politiques, sur les forces en présence. Évidemment, au niveau du bloc central de ce qu'on a appelé l'UMPS, on voit que il y a quelques villes qui s'intervertissent, mais qu'il n'y a pas de changement structurel. En revanche, vous avez évoqué la percée du Rassemblement national. On pourrait aussi évoquer la montée de la France insoumise. Sur ces deux partis, la France insoumise et le Rassemblement national, on a l'impression d'une victoire objective dans le sens où ils font un meilleur score qu'en 2020. D'un autre côté, ce qu'on peut observer aussi, c'est que ce score n'est pas à la hauteur de leurs ambitions. C'est-à-dire que la France insoumise espérait réussir à conquérir de grandes villes ou à prendre des places importantes dans certains conseils municipaux. Le Rassemblement national espérait prendre des villes comme Nîmes ou alors Toulon, voire Marseille. Il y a quand même peut-être des déceptions qui sont liées à l'importance de leurs espérances.
Alors, commençons par la France insoumise. La France insoumise, à ces élections, n'a pas réussi à mobiliser l'ensemble de son électorat. Donc, une partie des abstentionnistes, ce sont en réalité des électeurs proches de la France insoumise. Il faut regarder, par exemple, le taux de participation dans les communes où M. Mélenchon était arrivé très en avance à la dernière présidentielle ou même lors de leur candidature aux élections législatives. Donc, ils n'ont pas réussi à mobiliser une partie de leur électorat. La deuxième raison de la France insoumise, eh bien, c'est son positionnement politique de radicalisation qui a sans doute handicapé le parti auprès d'autres électorats, de d'autres gauches, voire même, ils n'ont plus bénéficié, puisqu'comme ils avaient bénéficié aux législatives, d'une sorte, comme dirait l'avocat Goldaen, une sorte de privilège rouge. C'est terminé ce temps-là. Donc ça doit les interpeller sur leur stratégie, du moins pour les prochains scrutins. Quant au Rassemblement national, bien entendu, Il lui manque en réalité dans son bilan définitif une grande ville. Et il est vrai que Toulon manque à l'appel d'une certaine manière, parce que ça aurait amplifié le très bon résultat qu'il a obtenu. Pour la ville de Nîmes, c'est là le cas classique en réalité, que la ville est retombée dans les mains du Parti communiste français, parce que en réalité, la droite républicaine, enfin, les républicains, ont maintenu le candidat. Et c'est ainsi. Donc nous avons le paradoxe que Nîmes est une ville sans doute beaucoup plus à droite, très majoritairement, et il y a une perdition. Mais il est vrai que ça doit interpeller les dirigeants du Rassemblement national, même au-delà de ne pas avoir gagné Toulon ou Nîmes, voire Marseille. Ce qui était plus préoccupant pour eux et qui reste, c'est leur très faible score dans les métropoles régionales au premier tour, à Toulouse, à Rennes, à Paris. Bon, il y avait un système de concurrence à Lyon, etc. Donc là, le Rassemblement national a un immense chantier, et d'autant plus dans la perspective des présidentielles, qu'il va falloir sérieusement qu'il travaille les grandes métropoles, ou qu'il trouve du moins des thèmes qui mobilisent ses électorats, qui sont beaucoup plus divers que simplement des électorats, comme on dirait, préoccupés simplement de questions de qualité de vie ou de l'environnement. Oui, c'est cela, mais il y a bien d'autres choses dans les grandes métropoles.
Il nous reste 3 minutes, Philippe Poirier. J'aurais une dernière question qui serait liée à cela. On voit aussi un découpage territorial particulièrement important pour le Rassemblement national, dans le sens où le bassin mosellan, le bassin minier du Nord et le sud-est de la France lui sont très, très favorables. On peut penser aussi à un département comme la Gironde. En revanche, en Corse, en Bretagne, dans les Pays de la Loire, en Normandie, ça reste quand même extrêmement faible. Comment est-ce que on peut expliquer que même dans une élection municipale, ils n'y parviennent pas ?
Alors, le seul bon résultat à l'ouest de la France, dans la tradition d'André Siegfried, le fameux tableau de l'ouest de la France, ils ont tout de même gagné la ville de La Flèche, oui, dans la Sarthe. Donc, on voit qu'il y a une avancée dans la Sarthe. Et en Normandie, il y a quand même ici et là des résultats, du moins dans l'ancienne Haute-Normandie, il y a quand même des résultats intéressants pour le Rassemblement national. Mais là, dans l'ouest de la France, il se confronte à quoi ? Justement, à la grande présence encore et forte des divers droites. C'est les divers droites qui mènent la danse dans l'ouest. Et d'ailleurs, on ne l'a pas assez remarqué, c'est que les divers droites ont infligé un camouflet historique au Parti socialiste, puisque le Parti socialiste détenait des villes depuis 1977, c'était la grande référence pour la gauche des municipales, et il a perdu la ville de Cherbourg, la ville de Brest, toutes les communes autour de la ville de Brest ont basculé vers les divers droites, Saint-Brieuc a été de nouveau repris par les divers droites, donc là, on voit très bien que les cultures politiques régionales demeurent encore des affiliations, des socialisations politiques qui ont bénéficié cette fois-ci au centre droit, mais surtout à des divers droites. Mais au même moment, si le Rassemblement national ne parvient pas à conquérir beaucoup à l'ouest, les Républicains sont rayés aussi en même temps, quasiment, de l'ouest. Il faut voir le résultat très faible des Républicains dans certaines villes moyennes, alors qu'ils les détenaient ou étaient affiliés. Donc, vous voyez, il y a un phénomène général de recomposition ou de maintien de notabilisation des divers droites dans le Grand Ouest de la France.
Oui, ce qui traduit sans doute dans le fond le remplacement de l'ancien communisme municipal, socialisme municipal, par effectivement une droite municipale. Merci beaucoup Philippe Poirier d'avoir été avec nous ce matin. On vous recevra sans doute dans les semaines à venir, sans doute pour tirer d'autres enseignements de ces élections ou pour aller chercher d'autres thèmes. Merci d'avoir été avec nous, on vous dit à très bientôt.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, Ligne Droite, avec Alexandre de Galza.
Chers auditeurs, merci d'être avec nous ce matin. Il est 7h24. Dans 25 minutes, nous recevrons Arthur de Vatrigan pour sa chronique hebdomadaire. Et puis à 8h20, ce sera Pascal Pierra, pardon, qui nous rejoindra. Mais tout de suite, nous allons parler de Lionel Jospin avec Éric Branquin.
Ligne Droite. Le grand entretien.
Et pour ce grand entretien, nous recevons, comme je le disais, Éric Branca. Éric Branca, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien, vous êtes journaliste, vous êtes écrivain de nombreux ouvrages comme L'ami américain, De Gaulle et les grands. Et vous publiez tout juste La République. Non, vous avez publié, pardon, La République des imposteurs également. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de l'histoire de la gauche que vous maîtrisez bien, à travers celle d'un personnage qui vient de décéder, Lionel Jospin. Alors, chers auditeurs, j'ai vu quelques commentaires par-ci par-là sur les réseaux sociaux disant qu'il était un peu trop tôt pour dire du mal de Lionel Jospin. Mais contrairement à la gauche, nous ne serons pas bêtes et méchants. Nous allons analyser un petit peu qui il était et analyser son bilan qui est objectivement désastreux, mais nous le ferons de manière tout à fait honorable. Alors, Éric Branca, commençons par cette simple question. Lionel Jospin, il vient d'une famille qui est quand même un petit peu particulière. Il vient d'une famille collaborationniste de gauche, si je ne dis pas de bêtises.
Vous allez un peu loin, mais vous n'êtes pas... c'est à peu près la vérité.
J'allais dire, il y a un film qui vient de sortir en plus à ce sujet. Famille protestante, on va dire pacifiste de gauche. Oui. Expliquez-nous un petit peu quelles sont ses origines, d'où il vient en fait.
Ils sont trotskistes. En même temps, qui sont protestants. Effectivement, ils sont d'origine protestante. Mais le père de Lionel Jospin, c'était la gauche de la SFIO pacifiste, avant-guerre, extrêmement tenté par le trotskisme, qui devient quasiment un compagnon de route des trotskistes, qui n'adhère pas apparemment à un parti trotskiste, et qui, pendant la guerre, fait partie de ces gens qui sont ce qu'on appelle des pacifistes défaitistes. Oui. Qui considèrent que, ça c'est la colonne vertébrale du trotskisme, il faut que les nations disparaissent, il faut que les nations, c'est le mal absolu, c'est l'internationalisme qui prime, etc. Et donc, si la nation française est battue, fut-elle battue par Adolf Hitler, c'est pas très grave, il fait le travail, et puis après on passera peut-être aux Allemands. Bon. Et donc, pendant la guerre, non seulement il n'est pas inquiété, bien qu'on sache qu'il a été adhérent de la SFIO, non seulement il n'est pas inquiété, mais il est assez dans les petits papiers du gouvernement Pierre Laval pour être nommé maire de Meudon en avril 1944. Alors, c'est pour ça qu'on dit qu'il a été collaborationniste. Il n'a pas
agi vraiment pour la collaboration.
Il n'a rien fait et il a accepté d'être tout de même l'auxiliaire des Allemands pendant les trois derniers mois de l'occupation, qui ont été particulièrement atroces à Paris. Il y a eu des déportations, il y a eu des otages fusillés, etc. Et il a laissé faire tout ça. Ce qui lui a valu d'ailleurs d'être suspendu de la SFIO pendant 10 ans. Il n'a réintégré la SFIO qu'après. Donc, la vraie matrice, c'est pas la collaboration, c'est un pacifisme qui le conduit de fait à la collaboration.
Et d'ailleurs, Lionel Jospin a un frère qui, lui, va être trotskiste jusqu'au bout, là où...
Oui, Olivier, absolument.
Oui, exactement.
Son frère Olivier. Alors, ce qui est drôle, c'est que Jospin a longtemps dit qu'on l'avait confondu avec son frère Olivier, qui n'avait jamais fait partie de l'OCI, cette fameuse secte, j'emploie le mot à dessein. Alors là, c'est pas exagéré, c'est vraiment une secte. La mouvement trotskiste, elle est extrêmement complexe, ils n'arrêtent pas de s'excommunier mutuellement, de se faire la guerre, etc. Mais il y en a une vraiment qui est... Alors d'abord, qui est l'héritière de la 4e internationale de Trotsky, c'est l'OCI, Organisation communiste internationaliste, et ça, c'est vraiment la matrice idéologique de Jospin. Il y adhère très très tôt, il y adhère au moment de la guerre d'Algérie. Il fait un bref passage au PSU ensuite et il fait partie de l'OCI. Et alors la vraie question, c'est jusqu'à quand? Or, il est à peu près établi maintenant. Des gens ont fait leur travail, des journalistes de droite, de gauche, enfin, des gens qui ont bien fait leur travail ont établi qu'il avait eu des rapports très étroits avec eux jusqu'en 1987, c'est-à-dire 6 ans après l'élection de Mitterrand. Et il a toujours nié. Pourquoi est-ce qu'il a nié? C'est ça qui est très intéressant. On peut comprendre qu'il a été trotskiste. Il y a des hommes politiques qui ont été trotskistes qui l'ont dit. Oui. Mélenchon ne l'a jamais renié.
Même certains qui sont du PS central aujourd'hui. Même François Hollande, je crois, a eu un passé légèrement trotskiste.
Oui, peut-être.
Jean-Christophe Cambadélis.
Il n'a jamais fait les choses à fond.
Bien sûr, mais Jean-Christophe Cambadélis aussi.
On va en parler.
Pas non plus connu comme étant le plus radical non plus
très important
du Parti Socialiste. Mais oui, attendez, allons-y étape par étape. peu chronologiquement. Donc, ça veut dire que le premier engagement politique de Lionel Jospin, c'est quand même, pendant la guerre d'Algérie, un engagement trotskiste internationaliste.
Absolument. Ouais. Et d'ailleurs, il aide... le MNA, qui est l'autre, les communistes et la gauche pro-Algérie, algérienne, aidaient plutôt le FLN et les trotskistes aidaient le MNA. Et quand il était à l'Institut universitaire d'Antony en 59-60, il préparait l'ENA, les Sciences Po ou l'ENA ou les deux, il était très proche du MNA et on pense même qu'il a aidé des militants du MNA recherchés pour des attentats, à se cacher, ouais, etc. Et je dois dire que c'est assez fascinant de le voir de voir sa cérémonie funèbre avoir lieu aux Invalides, qui est quand même un temple de l'armée française. C'est quelqu'un qui a quand même aidé des gens qui se battaient contre l'armée française à ce moment-là. On peut avoir été Algérie française, mais Algérie algérienne, mais de là à les aider, c'est tout de même assez spécial. J'ajoute qu'il a écrit un livre sur Napoléon épouvantable, et sa cérémonie qui s'appelle Le mal napoléonien, qui est paru en 2014. Et avoir une cérémonie funèbre à quelques encablures du tombeau de l'empereur, l'histoire est prodigue en ironie.
Exactement. Et alors, on va pas faire tout le détail non plus de l'ascension de Lionel Jospin, mais c'est vrai qu'il rentre au Parti Socialiste, notamment, je crois, en devenant conseiller municipal de Paris au bout de quelques années. Oui. Puis, effectivement, il arrive à grimper les échelons jusqu'en 1981. Mais ce qui m'intéresse, c'est de savoir quelle était sa ligne au sein du Parti Socialiste et face à qui il était opposé. Alors, qui étaient ses amis dans le Parti Socialiste?
Question très importante que vous posez là. D'abord, il faut savoir que c'est donc un infiltré. Le propre des gens de l'OCI, c'était d'être infiltré dans les partis dits « bourgeois », entre guillemets. Et donc, il avait cette mission-là, il l'a parfaitement remplie. Et puis, Mitterrand, qui avait des fiches et qui savait parfaitement d'où venait Jospin, bien que Jospin ne lui ait sans doute jamais dit, lui a donné deux missions. La première mission, quand il adhère au PS en 71 au congrès d'Épinay, c'est de lutter contre la vieille gauche, ce qu'on appelait la vieille gauche, c'est-à-dire Guy Mollet, tous les anciens de la SFIO, que Mitterrand transforme en PS en 71. Et l'autre, et ça c'est extrêmement intéressant, c'est de lutter contre l'influence de Jean-Pierre Chevènement, du CERES de Jean-Pierre Chevènement, qui avait aidé Mitterrand à prendre le pouvoir à Metz, mais que Mitterrand jugeait trop nationaliste. Le Chevènement, c'est l'anti-Jospin. Oui. C'est la gauche patriote, on peut même dire gaulliste, d'une certaine manière, et s'est toujours battu contre tout ce qui déstructure la nation. Bon. Jospin, c'est l'inverse. Les trotskistes, ils déstructurent tout. Je ne sais pas s'ils pensent encore à faire la révolution mondiale, peut-être qu'ils n'y pensent pas, mais en tout cas, quand il s'agit de déstructurer ce qui marche, ce qui existe, ça, ils sont très bons. Et il a eu vraiment ce rôle-là au sein du PS.
Mais Jospin, c'est aussi l'antistalinisme, parce que trotskiste, on se rappelle notamment de son débat face à Georges Marchais, quand même à cette époque, où je crois qu'il y a cette phrase, mais ça fait 30 ans que vous n'avez pas mis les pieds à l'usine, monsieur Marchais, il me semble que c'est ça.
Oui, absolument, oui. Ah ben ça c'est l'ADN des trotskistes, c'est l'antistalinisme. Mais l'antistalinisme, là encore, c'est une imposture, parce que les trotskistes ont réussi à se faire passer pour les défenseurs des droits de l'homme, alors que c'est eux qui ont inventé la terreur stalinienne. Oui. Qui a été mise en place ensuite par Lénine et par Staline. La grande divergence entre les trotskistes et les staliniens, c'est que les staliniens et les communistes traditionnels étaient pour expérimenter le socialisme dans un seul pays, et que les trotskistes voulaient la révolution mondiale. Donc c'est pas du tout une question de droits de l'homme ou de respect de la démocratie, ça n'a rien à voir. Rien à voir.
Et alors, Lionel Jospin a quelques amis aussi au sein de ce Parti Socialiste, parmi lesquels on retrouve, si je ne m'abuse, Dominique Strauss-Kahn, avec qui il va faire en fait un bon bout de chemin.
Absolument.
Quand même, même jusqu'en 2011, où il soutient la candidature de Dominique Strauss-Kahn.
Oui, absolument. Ouais. Absolument. Alors ça, c'est... Bon, il n'a jamais été trotskiste, hein, Strauss-Kahn. Mmh. Enfin, à ma connaissance, peut-être... Il y a peut-être eu des bouts de chemin faits ensemble. Enfin, il n'a jamais fait partie de cette organisation-là. Mais ça, c'est... ça remonte... au milieu des années 80. Au milieu des années 80, Mitterrand, qui a besoin... des trotskistes, qui a besoin, parce que c'est des militants parfaitement organisés, parfaitement efficaces. Il y a un deal qui est fait à ce moment-là entre l'OCI et Mitterrand. En 1985, la l'imprimerie de l'OCI, qui est en grande difficulté, est remontée par la Mutuelle nationale des étudiants de France, la MNEF. Et la MNEF, elle est peuplée d'amis de Strauss-Kahn depuis longtemps. Et en échange de cela, les socialistes vont demander à l'OCI de faire entrer 300 militants parfaitement aguerris à l'intérieur du PS. Et donc, en 85, le PS est investi par les 300 meilleurs militants de l'OCI. Et c'est un deal, ça, qui est tout à fait documenté maintenant. Vous trouvez ça dans le livre de Serge Raffi sur Jospin en 2001, je crois. Bref, je ne rentre pas dans les détails, mais c'est important de savoir qu'à ce moment-là, il s'appuie sur... Mitterrand s'appuie sur une partie de l'OCI qui rentre au PS, et c'est là que Cambadélis rentre au PS, et ils vont prendre en main la MNEF. Et Strauss-Kahn est un des conseillers de la MNEF, etc. Et c'est là d'ailleurs, dans le scandale de la MNEF qui va éclater quelques années plus tard, parce qu'il faut quand même savoir que ce scandale a été quelque chose d'énorme, puisque la MNEF, la Mutuelle Nationale des Étudiants de France, qu'est-ce qu'ils ont fait avec l'argent des étudiants? Entre autres, ils ont acheté un yacht sur lequel partaient Julien Drey, Cambadélis, Strauss-Kahn, leurs amis, enfin c'est insensé. Et voilà d'où les rapports entre Jospin et Strauss-Kahn remontent à ce moment-là, parce qu'ils ont vraiment mis la main sur le PS.
Et alors, l'ascension de Lionel Jospin se poursuit, devient premier secrétaire du Parti Socialiste en 1981, il me semble. Et puis, peu de temps après, François Mitterrand fait appel à lui pour devenir ministre de l'Éducation nationale. C'est le premier poste à haute responsabilité de Lionel Jospin dans le plan institutionnel. Quel est le bilan de Lionel Jospin à l'Éducation nationale?
En un mot, catastrophique, sur un double plan. D'abord sur le plan des programmes, etc. Parce que c'est lui qui a parachevé une tendance déjà ancienne, qui avait commencé sous Giscard, avec la réforme Habi, etc., qui était de livrer l'éducation nationale au pédagogisme. Mais là, les IUFM, l'idée de mettre... les IUFM sont devenus la colonne vertébrale de l'éducation nationale. L'idée de mettre l'élève au centre et plus du tout le savoir à transmettre, c'est à ce moment-là que ça se passe. Et puis l'autre plan sur lequel, alors là, nous vivons maintenant, nous en subissons l'héritage quotidien, c'est la montée du communautarisme islamique. Puisque c'est à ce moment-là qu'a lieu la première affaire du voile.
Exactement. Alors, l'affaire du voile de Creil. Absolument. Rappelons très rapidement les faits. Donc, trois collégiennes, vont dans leur collège, donc à Creil, voilées, et le directeur décide de les suspendre, il me semble, de l'établissement. Et là commence une affaire, effectivement, qui prend de l'ampleur au niveau national, dans laquelle Lionel Jospin va tergiverser pendant des semaines, pour finir par dire qu'en fait, il faut juger au cas par cas.
Voilà, exactement. Et donc, l'idée, c'est... Alors, d'abord,
c'est une polémique, pour le coup, vraiment nationale à ce moment-là.
C'est un test. Parce que ce n'est pas les pauvres gamines qui ont 10-11 ans qui ont décidé ça. Elles ont fait ce que les parents, et notamment leur père, leur a demandé de faire. D'ailleurs, j'ai revu, avant de venir, quelques extraits des JT de l'époque. C'est les pères qui interviennent. Les gamines, elles ne disent rien. Elles sont vraiment sous la coupe de leurs parents. Et elles font ce qu'on leur demande de faire. Et les pères sont des gens qui ont une dialectique très, très... frériste, très association des frères islamiques. Et ils expliquent que, ils le disent eux-mêmes, c'est un test. Et Jospin va évidemment réussir ce texte dans le sens que souhaitaient les islamistes, puisque les jeunes filles vont, d'abord, elles vont être très intégrées. Le directeur de l'établissement va être sanctionné, on va lui demander de réintégrer les jeunes filles. Et donc, on transmet le bébé au Conseil d'État, et le Conseil d'État dit il faut que les sites ne soient pas ostentatoires, etc. Bon, et effectivement...
Il faudra attendre presque 20 ans pour avoir une nouvelle loi, la loi de 2004, sur le port du voile. Mais ça laisse quand même une quinzaine, une vingtaine d'années avec cette espèce de flou.
Absolument. Et le phénomène va prendre une ampleur considérable. Aujourd'hui, il y a des établissements où la moitié des jeunes filles portent le voile, en banlieue. Bon, c'est comme ça. Or, on aurait pu trancher à ce moment-là. Et l'épreuve de force, elle a vraiment été déclenchée pour ça. Et Jospin a fait exactement ce que les islamistes attendaient.
Alors, on va passer à l'étape suivante. Dans cet entretien, je rappelle simplement... chers auditeurs, que vous pouvez faire des dons à Radio Courtoisie, que c'est quelque chose d'important dont on a besoin, que sans ça, eh bien, on ne survit pas. Et vous avez l'air de beaucoup apprécier cet entretien, de ce que je peux voir, de ce que je peux entendre. Donc, merci d'être avec nous ce matin. Et si vous voulez que ça se poursuive encore une fois, eh bien, rendez-vous sur soutenir.rc.fr ou alors envoyez vos chèques au 61 boulevard Murat, 75016 Paris. On compte sur vous. Je reviens avec vous, Éric Branca. Je rappelle aux auditeurs qui viendraient de nous rejoindre que vous êtes historien et journaliste et que vous connaissez très bien l'histoire de la gauche. Alors, on parle donc de Lionel Jospin. On va avancer un petit peu. On va arriver en 1995, élection présidentielle. Lionel Jospin est candidat pour le Parti Socialiste après le retrait de Jacques Delors. Et alors là, c'est la défaite.
Oui, oui, oui. Alors, peut-être une précision intéressante, en 1988, Pierre Lambert, donc, dont on a parlé tout à l'heure, oui, le mentor de Jospin, a fait voter directement pour Mitterrand et pas pour Marché. C'est quand même intéressant. Bon, bref. Et donc, en 1995, il est candidat et il fait une campagne alors, très, très soutenue par les caciques socialistes, mais déjà très bien pris en main par les gens de l'OCI qui étaient entrés au Parti Socialiste et où l'antiracisme va avoir une place très importante, parce qu'il ne faut pas oublier que parmi les conséquences de l'entrée des trotskistes au sein du PS, il y a la création d'SOS Racisme, et donc ce thème devient absolument prégnant. Et en 1995, il va faire un score à peu près correct. Hein.
Oui. C'est 47-53, quelque chose comme ça.
Absolument, absolument. Ce n'était pas du tout déshonorant. Ce n'était pas du tout déshonorant. Le débat avec Chirac a été un débat de bonne tenue.
Poli.
Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a pu connaître après. Et par rapport à l'effondrement qui a été le sien en 2002.
Oui.
Et je pense que dans l'effondrement de 2002, l'affaire du trotskisme, le fait qu'il n'ait pas voulu reconnaître qu'il avait fait partie de ce mouvement-là, le fait qu'il ait nié totalement ses attaches, alors que par ailleurs il traitait Chirac de menteur, ce qui n'est pas entièrement faux d'ailleurs, mais lui, un menteur, menteur et demi, si vous voulez, parce qu'il mentait sur son identité. Et je pense que ça n'a pas été pour rien dans sa défaite.
Et effectivement, donc il y a cette défaite, mais suit peu de temps après l'immense victoire de Jospin et ce pourquoi il est connu en réalité et ce pourquoi il a un petit peu marqué la vie politique française, c'est qu'il parvient à devenir Premier ministre en 1997. Déjà, est-ce que vous pourriez rappeler un petit peu pourquoi Chirac dissout et pourquoi il perd aussi largement cette élection législative?
Alors, il y a beaucoup de raisons. D'abord, c'est un pari qui a été manqué de peu. Ça a été on connaît le résultat maintenant, on dit que ça a été la pire bêtise qui est faite Chirac.
Oui.
Mais le pari, il était fondé sur deux choses. Il était d'abord fondé sur la certitude que la conjoncture allait se retourner en 1998, qui était la date légale des élections législatives, et donc avant que la conjoncture ne se retourne, il fallait profiter de la croissance, etc. Et la deuxième chose, l'UMP, enfin c'était pas encore l'UMP, le RPR et l'UDF à l'époque, passaient leur temps à injurier le Front National.
Oui.
Et le Front National s'est maintenu dans une cinquantaine de circonscriptions. Ils n'avaient pas prévu ça. Et si le Front National ne s'était pas maintenu, la droite serait vraisemblablement repassée. Donc c'est une victoire de la gauche par défaut. Les deux raisons de la dissolution, c'était ça. C'était, il ne faut pas attendre 98 que la conjoncture se retourne pour dissoudre. Refaisons des élections tout de suite. C'est pour ça qu'ils appelaient ça le nouvel élan. Et la deuxième chose, c'est qu'ils ont sous-estimé les conséquences de leur refus de collaborer avec le Front National.
Alors, Lionel Jospin donc devient Premier ministre de la France, devient Premier ministre de Jacques Chirac en 1997. Et alors là, il fait rentrer ce qu'on appelle les éléphants du PS.
Oui.
Il commence à recruter, je crois, Dominique Strauss-Kahn devient justement Premier ministre à ce moment-là. Martine Aubry.
Ministre de l'économie.
Claude Allègre aussi, exactement.
Oui, absolument.
Et alors là, en fait, je ne sais même pas exactement par où commencer, parce que rappelons deux choses quand même, c'est que Jospin est jusqu'à ce jour le Premier ministre le plus populaire depuis ces 25 dernières années quand même, ce qui est assez surprenant. Il finit à 40%, ce qui est considéré comme bas à l'époque, 40% d'opinion favorable, et ensuite c'est quand même le Premier ministre qui a duré le plus longtemps de toute la Ve République.
Oui, alors, cette histoire de 97 est passionnante. L'idée de Jospin, c'est de préparer la présidentielle suivante. Et donc, il veut s'appuyer sur les Verts, et son idée, c'est la majorité plurielle. Ouais. Et pour s'appuyer sur les Verts, et à mon avis, c'est un crime politique. C'est un crime contre la France. Il va détruire le nucléaire pour faire plaisir à 4% de la population, du corps électoral.
Et c'est là qu'on va rappeler que l'infâme Dominique Voynet, qui s'aborde le nucléaire, c'est pile à ce moment-là.
Exactement à ce moment-là. Or, il faut rappeler qu'il n'a pas besoin mathématiquement des Verts pour avoir une majorité. À l'issue des élections de 97, il a à peu près 310 députés. 310 députés sans avoir à recourir aux voix des Verts. Mmh. Et là, je vous rappelle que la majorité, c'est 289 pour avoir la majorité absolue. Donc, il a largement de quoi gouverner. Le PS est pour le nucléaire. Les communistes sont pour le nucléaire. Toute la droite, du Front National à l'UDF, est pour le nucléaire. Donc, il n'y a aucun problème. Et il va, pour faire plaisir à Dominique Voynet, aux Verts, sur lesquels il compte pour l'élection de 2002, il va vraiment commettre un crime contre la France, je le dis comme je le pense, qui est l'arrêt de Superphénix.
Eh oui.
Superphénix, c'était, en deux mots, c'est un surgénérateur qui permettait de recycler les déchets et donc qui fermait le cycle de l'atome.
C'est-à-dire que ça répondait... Et c'est quelque chose, pardon, qu'on est en train de mettre en place aujourd'hui dans d'autres pays.
Oui.
On avait 25-30 ans d'avance à ce niveau-là par rapport à
absolument
la plupart des pays qui produisent du nucléaire aujourd'hui. C'était sidérant. Effectivement, donc, ces choses-là, c'est détruit. Il y a aussi d'autres domaines où Lionel Jospin va avancer sans trop avoir peur, évidemment, les 35 heures.
Alors, les 35 heures, c'est très intéressant parce que c'est une alliance entre la gauche des syndicats et le grand patronat.
Mmh.
Parce qu'il y avait une partie du patronat qui, pour éviter de faire grimper les salaires des cadres, ont eu l'idée géniale de donner, au lieu de donner les augmentations, de donner des RTT, n'est-ce pas ? Des congés.
Ouais.
Et donc, ça a plu une partie du patronat. Et puis alors, dans la fonction publique, ça a été une catastrophe absolue, et notamment à l'hôpital, parce que c'est à partir de ce moment-là que commence la crise de l'hôpital, où on voit de moins en moins de médecins, parce qu'ils sont de moins en moins payés, et de plus en plus d'administration dans l'hôpital.
Oui, et pardon, d'un autre côté, Éric Branca, c'est quand même que la croissance est très forte à cette époque-là en France. Elle est quand même, je regardais ça hier, 1% supérieure, au moins 1% supérieure à la moyenne de l'Europe pendant tout le mandat Jospin.
À lui, il gaspille vraiment les dividendes de la croissance.
Oui,
ça c'est clair et net. Hein.
Oui. C'est pas grâce à Jospin que justement on a cette croissance supérieure.
Ah non, pas du tout. Non. Alors là, vraiment. Non, je crois que c'est la politique qui avait été menée, malgré ses insuffisances, par Chirac à partir de 95.
Et alors, il y a aussi le chômage qui perd 3 ou 4 points quand même pendant cette période. En fait, Jospin, c'est un petit peu un petit âge d'or de la deuxième partie de la 5e République, disons.
Oui, alors très petit, hein. Très très petit.
Non, mais dans le sens
même.
Où, encore une fois, la conjoncture économique est plutôt favorable sur quand même bien des domaines. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est resté plutôt apprécié aujourd'hui encore en France.
Je dois dire que c'est assez consternant. Quand on compare sa popularité posthume au vrai bilan qui a été le sien, c'est assez effarant, quoi.
Donc ça, c'est pour le plan économique. En fait, il y a tellement d'aspects qu'on n'arrivera jamais à tout traiter, mais on peut peut-être, 2 minutes avant la chronique d'Arthur de Vatrigan, rappeler aussi que l'AME, donc l'aide médicale d'État, et la couverture, la CPAM universelle, en fait, c'est lui, tout ça.
Absolument,
ouais.
tout ça, c'est lui.
Ouais.
Et puis, la loi SRU, très important, la loi SRU... Ouais. Puisque,
donc la loi, rappelons, qui impose un quota de HLM, de logements sociaux, dans chaque ville.
Exactement. Au-delà de 20%, en deçà de 20%, les communes payent des pénalités, voire des amendes. Et donc ça a été une pompe aspirante supplémentaire pour l'immigration extra-européenne.
Mmh. On va passer à, justement, on parlera de son bilan sécuritaire migratoire un peu après. Vous restez avec nous, Éric Branca. On va tout de suite recevoir Arthur de Vatrigan, qui va nous faire sa chronique.
7h, 10h sur Radio Courtoisie. Suivez la ligne droite.
Bonjour Arthur. Alors vous étiez, je crois, hier soir sur Radio Courtoisie pour votre émission Restons Courtois. Vous êtes avec nous ce matin pour Ligne Droite. De quoi allez-vous nous parler, Arthur ?
Bonjour Alexandre. Bah, comme il y a le grand Éric Branca qui est là, je me suis dit on allait parler un peu d'histoire quand même. Parce que voilà. Mais comme je ne suis pas historien, je n'allais pas faire une chronique d'histoire non plus. Et on va parler des rayons et des ombres. Ah. Parce que grand film, et surtout, c'est un film qui fait débat au sens positif du terme. C'est un film qui donne à converser. Et ça faisait très longtemps qu'un film français n'avait pas donné autant de sujets de conversation. Alors, il fallait déjà être un peu fou pour faire ce film. 3h15 sur la collaboration, donc sur Jean Luchaire, sur sa fille Corinne, sur Otto Abed, sur les faces pourries de l'occupation. Bref, un film énorme, coûteux, risqué, avec Jean Dujardin au collabo de luxe hypnotisé par la bête immonde. Donc à l'heure où le cinéma doute de lui-même et où les salles se vident, où tout le monde calcule, temporise et sécurise, bah Gianoli, donc le réalisateur, fait exactement l'inverse, il fonce. Alors quand on connaît sa filmographie, c'est guère étonnant. Alors il lui a fallu un grand succès public et critique pour gagner la confiance des producteurs. C'était chose faite avec Illusion perdue, son adaptation magistrale de Balzac. Mmh. Résultat, Gaumont lui file 30 millions pour faire ce film. Alors, c'est vrai qu'il a quelques qualités, notamment celle d'imprimer sur pellicule une reconstitution d'époque. Ça, il maîtrise. Mais ensuite, surtout, Gianoli, c'est le cinéaste parfait pour prendre à bras-le-corps ce sujet. Parce qu'il a construit une filmographie passionnante avec comme sujet le mystère et les illusions, donc c'est-à-dire la recherche de la vérité. Il y a à l'origine l'histoire d'un escroc qui va reprendre le chantier d'une autoroute abandonnée qui va tromper tout le monde. Vous avez Marguerite qui raconte l'histoire d'une femme fortunée, passionnée de musique, qui chante régulièrement devant son cercle d'habitués, mais qui chante tragiquement faux et personne ne lui a jamais rien dit. Vous avez l'apparition, l'histoire de Jacques qui est grand reporter pour un quotidien français qui va se retrouver à participer à une commission d'enquête sur une apparition de la Vierge Marie dans une petite ville du Sud-Est, et bien sûr, Illusion perdue, magistrale adaptation de Balzac. Donc, vous voyez, dans sa filmographie, c'est guère étonnant qu'il s'attaque à ce sujet-là. Et avec la collaboration, bah voilà, c'est le parfait sujet pour percer un mystère et comprendre une ingénierie qui se met à l'œuvre. Donc on va divulgâcher la fin, ça se termine pas très bien, mais je sais que la durée peut rebuter, le film dure 3h15, mais en fait, il n'en est rien, j'ai vu des films d'une heure et demie, avec un ressenti qui tutoyait facilement les 4-5 heures. Mmh. Là, on ne voit pas le temps passer, donc déjà, vous n'avez pas de raison de ne pas y aller. Et pourtant, ça ne commençait pas très bien. Parce que le début se révèle très appliqué, un peu raide, empesé, tout est très léché, surligné. On dit que ça va être long. Même Dujardin paraît un peu coincé dans le vernis, dans son vernis de sa panoplie des années 30. Et justement, bah, le film semble engoncé comme s'il avait peur de déborder. Sujet casse-gueule, forcément. Donc au début, bah, on se dit, il va faire ceinture et bretelles, ça va être sympathique, mais très Netflix, c'est un peu chiant. Mmh. Mais la disposition, le contexte et la présentation des personnages terminés, trois bons quarts d'heure, là, changement de ton. Gianoli fait péter le vernis, il se met à faire du cinéma. Le vrai, celui qui vous emporte, qui vous fait oublier votre voisine qui pue et le connard en devant qui bouffe des pop-corns en faisant un bruit affreux. Et c'est vous dire que c'était voulu, c'était choisi. C'est-à-dire que ça demande un film de collabo, ça demande un peu de préliminaire, d'autant que la prise de risque est totale. Et parce que les guerres, la guerre, les rafles, la résistance, tout ça, il ne le filme pas. Tout est hors champ. C'est-à-dire qu'il fait le pari que le spectateur n'est pas débile, qu'on sait ce qui s'est passé. Forcément, j'ai rien à savoir qui ne connaît pas ce qui s'est passé pendant la guerre de 40. Et donc, il décide de laisser tout ça hors champ pour épouser le point de vue de Luchaire avec la distance parfaite, c'est-à-dire invisible, pour ne pas se faire becter non plus par son sujet. Il veut comprendre, et il veut que nous comprenions aussi. Donc, l'affaire, si vous voulez, est presque mentale, elle est presque psychique. La collaboration, ce n'est pas forcément qu'une affaire de conviction. C'est un glissement, parce qu'il flatte les bas instincts de l'homme, le confort, la gloire, le prestige, la revanche sociale, et puis survivre. Vous jamais oublier que vous êtes en temps de guerre, en occupation, il faut bouffer, il faut protéger sa famille, il faut survivre. Et donc, bah, la gauche non plus n'a pas été épargnée. Ils ne sont pas immunisés contre le mal, c'est ce qu'on découvre. Alors oui, ça pique un peu, car choisir un mec de gauche pour montrer les rouages de la compromission et de la trahison, il fallait quand même avoir une paire sacrément bien accrochée. Et c'est ce que choisit Gianoli. Donc, ce qu'il nous raconte, c'est que personne n'est immunisé finalement. C'est l'homme n'est pas monstrueux. Alors, il y en a évidemment, mais qui sont finalement aussi rares que les résistants. Ce que nous montre Gianoli, c'est que l'homme est faible et que le bon côté de l'histoire, finalement, c'est qu'un récit de vainqueur, comme toujours. Et en France, bah, ce sujet, vous le savez, est explosif. Il a toujours été. Et on a mis des années Regardez un peu la collaboration en France, et notamment dans la culture et surtout dans le cinéma. Pendant longtemps, le cinéma français a préféré les mythes rassurants. Il a fallu attendre le début des années 70 pour que le vernis craque un peu. Deux exemples, Monsieur Klein de Joseph Losey avec Alain Delon, et évidemment La Combe Lucien de Louis Malle. Et là, soudain, on a commencé à voir ce qu'on ne voulait pas voir. Alors évidemment, ça a gueulé, parce que dès qu'on s'approche de ce sujet-là, bah, ça craque. Je me rappelle une critique de Minute infâme et de l'humanité tout autant. Forcément, on touche un nerf qui est un peu à vif. Mais c'est pour ça que le film de Gianoli compte énormément, parce que déjà, ne jamais oublier que c'est un film et que c'est
Ouais.
une très grande réussite cinématographique. Mais parce qu'il rappelle que la collaboration, ce n'est pas forcément qu'une page honteuse du passé. C'est une question en fait qui est assez permanente. Comment une société en vient-elle à travailler contre elle-même? Comment héberger ce qui nous détruit? Comment s'acoquiner avec des puissances étrangères? Comment cultiver son propre virus qui s'appelle la fin de l'histoire? Mais là où il est grand, Giannoli, c'est qu'il donne à voir le point de vue d'un personnage, mais surtout, il nous fait comprendre que plus que jamais, cette histoire-là, le plus jamais ça, comme on dit, passe par la possibilité que ça peut être encore malheureusement possible. Simplement parce que l'homme est traversé par le péché. Mais lui, il discourt pas, il prêche pas, il met en scène parce que il nous rappelle que le cinéma est un miroir et que les images qu'il reflète nous renvoient à nous-mêmes. Et il nous projette au loin pour nous révéler notre réalité propre. Donc accepter que l'immunité n'existe pas, c'est déjà un bon début et c'est aussi le boulot du cinéma.
Merci beaucoup Arthur de Vatrigan. Je précise que je réfléchirai quand même à vous inviter pour un entretien peut-être croisé à ce sujet si jamais ça intéresse les auditeurs parce que j'ai effectivement vu ce film moi-même et je trouve que on pourrait en discourir encore pendant longtemps. Je rappelle, chers auditeurs, que si vous voulez que Arthur Vatrigan continue ses chroniques, si vous voulez que ses matinales se poursuivent, eh bien il faut faire un don.
Il faut nous soutenir financièrement, effectivement, Alexandre. Deux solutions pour ça. Tout d'abord, faites-nous des dons en ligne sur cette adresse. Notez-la bien, soutenir.rc.fr, soutenir.rc.fr. Et puis également, envoyez vos chèques à Radio Courtoisie, 61 Boulevard Murat, 75 016 Paris. On compte sur vous, c'est très important. Merci beaucoup.
Merci à vous et tout de suite, le face-à-face.
Ligne droite.
Nous avons de la visite.
Le face-à-face.
On ne perd pas Arthur de Vatrigan, mais on revient avec vous, Éric Branca. On revient un petit peu à Lionel Jospin. Lionel Jospin, on était au niveau de son mandat de, enfin, du moment où il était Premier ministre. Et quand il était Premier ministre, on parlait quelques minutes plus tôt aussi du voile de Creil. Il y a quand même des lois sur l'immigration qui passent. Il y a quand même un bilan, on va dire, sécuritaire et migratoire qui est pour le coup à peu près indéfendable aujourd'hui.
Ah oui, absolument. Alors, d'abord, sur l'immigration, on a très brièvement parlé de la loi SRU,
oui,
etc., de la CMU. Enfin, en fait, il a continué à ouvrir les pompes aspirantes qui avaient été déjà bien, bien ouvertes sous François Mitterrand, et même au tout début des années 70 avec Giscard quand il avait créé le regroupement familial. Bref, en matière de sécurité, c'est autre chose, c'est une espèce de naïveté incompréhensible.
C'est la police de proximité.
C'est ça. Et puis, surtout, cette idée que la sécurité, finalement, certes un problème, mais que ce qui est un problème bien pire, c'est le sentiment d'insécurité. Et c'est lui qui impose, pendant sa campagne présidentielle de 2002, ça commence d'ailleurs à s'effondrer dans les sondages à partir du moment où il parle de ça, il impose l'expression sentiment d'insécurité.
Mmh.
Et Chirac, qui avait beaucoup de défauts, mais qui avait tout de même un sens extraordinaire pour sentir les tendances, devient plus sécuritaire que jamais à l'époque.
Oui, c'est une sorte de pré-sarkozisme à ce moment-là. On peut avancer directement à la campagne de 2002, effectivement. Peut-être avec Arthur de Vatrigan. Arthur, donc Lionel Jospin, effectivement, se lance dans la campagne de 2002 extrêmement confiant. Et puis, évidemment, le coup de tonnerre absolu, son excès de confiance le trahit et il échoue. Alors, selon vous, pourquoi est-ce que Lionel Jospin, justement, a laissé Jean-Marie Le Pen accéder au second tour?
C'est une bonne question, parce que 2000, je suis vieux, mais pas à ce point-là, quoi. Donc, 2002, j'étais encore un peu jeuneau. Et si, quand même. Et donc, je vous avoue, je n'avais pas suivi autant les campagnes qu'aujourd'hui. Et puis, les outils dont on dispose aujourd'hui n'étaient pas encore aussi performants. Mmh. Donc, pour tout vous dire, je préférais écouter Eric Branca pour qu'il nous explique pourquoi.
Oui, moi, j'ai le privilège de l'âge. J'ai le privilège de l'âge.
Non, mais parce que vous... mais pourquoi ? Parce que le truc que je me pose toujours la question, c'est que, de mémoire, il me semble que Jacques Chirac n'a jamais fait des gros scores dans ses élections au premier tour d'une élection présidentielle.
Jamais, jamais.
Donc, je veux dire, quand on fait du 19-20%, réussi quand on est de gauche à ne pas être au second tour, c'est quand même une performance. Alors après, évidemment qu'il y a eu cette division, Chevènement, on s'en rappelle, Taubira surtout, Christine Taubira qui a rendu un superbe hommage à Jospin, elle manque pas d'air quand même. Je vais laisser Éric Branca nous raconter, mais moi ce qui me fascine, c'est à quel point la gauche, finalement, n'est pas si rancunière que ça. Parce que c'est quand même l'humiliation totale pour la gauche. Et vous voyez les réactions aujourd'hui sur Jospin, mais c'est fascinant, quoi. Alors, je sais qu'on doit le respect aux morts, mais on doit aussi la vérité aux vivants. Éric Branca l'a rappelé, nucléaire, SRU, AME. AME, je rappelle, à l'époque, on remboursait les cures thermales. Hein. 35 heures, voile de Creil, plus l'humiliation en 2002. Et j'écoutais France Inter, après avoir expliqué, quand Jacques Lang était en train de se faire attraper tel Al Capone, que c'était le plus grand ministre de la culture de la 5e, j'ai entendu sur France Inter dire Jospin, c'était le plus grand premier ministre de la 5e.
Ah oui.
C'est quand même fou, c'est qu'on a l'excommunication aussi facile que la canonisation, mais comme on doit le respect aux morts, j'irais simplement qu'on n'a peut-être pas les 35 heures au purgatoire.
Alors, un petit mot sur le respect des morts.
Hein. Oui.
C'est vrai, il y a une formule latine qu'on employait autrefois. Quand on ne voulait pas dire du mal d'un mort, on disait des mortuus nihil sine bonum. Des morts, on ne dit rien sinon du bien. Mm. Donc, on ne disait rien, ça voulait dire bon. Mais là, c'est un homme public. Et donc, son bilan, il appartient au public parce qu'il a influé sur la vie de millions de gens. Et donc, on peut juger son bilan sans juger l'homme.
Ce que je disais l'autre jour dans un décryptage, effectivement, sur Lionel Jospin, il faut citer Jean-Marie Le Pen, même mort, l'ennemi a le droit au respect, c'est certain. Et puis d'un autre côté, je pense pas non plus qu'on soit méchant envers Lionel Jospin dans cet entretien. Simplement, effectivement, comme vous dites, Éric Branca, il faut savoir presque de manière historique, disons, dresser ce bilan. Alors, je reviens à cette élection présidentielle de 2002 sur laquelle Arthur de Vatrigan vous interrogeait aussi. Donc, score du premier tour, Lionel Jospin arrive à 16,18%, donc 200 000 voix derrière Jean-Marie Le Pen. Et la gauche, effectivement, eh bien, il y a Arlette Laguiller, où on a oublié, hein, 5,72%, Jean-Pierre Chevènement 5,3%, Noël Mamère 5,2%, Olivier Besancenot 4,2%, Robert Rue 3,3%, enfin la division est totale.
Total, et le total c'est plus de 40% pour la gauche, c'est ça qui est intéressant. Mais Jospin pensait que de toute façon il serait devant. Oui. Le Pen d'ailleurs... est monté petit à petit. Il a commencé, comme toujours à l'époque, à 7%. On a toujours donné Le Pen à 7% au début de la campagne, et ça s'est toujours terminé à 14 ou 15. Mais là, il a fait 16. Bon, ça n'a pas été tellement... il a fait... Oui, c'est ça.
Oui, 16,8, c'est ça.
16,8, et Chirac à peine plus. Chirac a toujours fait, depuis 1981, entre 17 et 19%. Jamais plus. J'ai écouté l'autre jour, c'était sur France Inter, effectivement, l'extrait d'un documentaire qui avait été fait in vivo pendant la campagne et qui était destiné à montrer comment Jospin avait été élu. Et trois jours avant le premier tour, donc ça doit être le 19 avril, un journaliste lui demande et si Le Pen était au deuxième tour. Oui. Et là, il éclate de rire. Jospin éclate de rire et il dit « J'ai beaucoup d'imagination, mais je n'ai pas une imagination pareille. » Donc, passez à la question suivante. Et là, il perd son calme.
C'est quelque chose qui est souvent décrit de Lionel Jospin. C'est quand même une très haute opinion de lui-même et une très forte confiance en lui, d'une
certaine
façon.
Je crois que c'est l'envers de la dissimulation. C'est quelqu'un qui... C'est très fatigant de dissimuler. Et je pense que pendant 63 ans, il a dissimulé. Puisqu'il a avoué avoir été à l'OCI à 63 ans.
Oui, en 2001.
Et donc, à force de dissimuler, il y a des moments où les soupapes lâchent. Et la soupape, elle lâche au moment de cette campagne, justement, quand il est dans l'avion, au retour de la Réunion, c'est en février, et on l'interroge sur Chirac. Et il décrit Chirac comme prématurément usé, vieilli, etc. Il avait fait la même chose avec Mitterrand en 1991, quand il s'était séparé de Mitterrand. Mitterrand ne lui avait pas pardonné ça, d'ailleurs. Et donc, c'est quelqu'un qui, derrière un calme olympien et une humeur toujours égale, finit finalement par se lâcher et dire des choses irréversibles et qui lui font perdre beaucoup de voix. Et c'est ce qui se passe à ce moment-là. Et je pense que ça a suffi à le faire passer derrière Le Pen.
Et à partir de ce... Il y a aussi un autre sujet, c'est qu'on parlait de la question de la sécurité et de l'immigration. La campagne se fait quand même pas mal sur ces thèmes-là. Chirac devient sécuritaire et forcément, devient sécuritaire quelque part sans renforcer Jean-Marie Le Pen, pour qui, en fait, ce sont ses thèmes de prédilection, dans le fond. Donc, Jospin crée, crée durant son passage à Matignon les conditions de l'accession de Jean-Marie Le Pen au second tour.
Absolument. Ah oui, non mais il n'y a rien à dire de plus, vous avez tout dit.
Bon, et ensuite, alors, ce qui se passe, c'est évidemment ce fameux discours durant lequel Lionel Jospin se retire de la vie politique.
Alors là, c'est sans doute ce qu'on peut lui reconnaître en fait de dignité, parce que ça, il y a très peu d'hommes politiques qui font ça. Mais il faut tout de même, à maudit un peu ce que je dis, immédiatement après l'avoir dit, c'est qu'il semble qu'il ait cherché à revenir en 2007. Et qu'il a très mal pris l'émergence de Ségolène Royal. Et il a vraiment essayé en 2007 en se disant « Bon, ça y est, mon purgatoire est terminé, 5 ans de purgatoire. » Et finalement, il s'est fait couper l'herbe sous le pied par Ségolène Royal. Donc, il a quand même essayé de revenir.
Et alors, en 2007, c'est également l'année durant laquelle Lionel Jospin raconte à la télévision, il me semble, que cette histoire de front antifasciste contre Jean-Marie Le Pen, dans le fond, c'était de la blague.
Alors, c'est pas à la télévision, c'est à France Culture. Ah. C'était l'émission hebdomadaire d'Alain Finkielkraut. Voilà, exactement, d'Alain Finkielkraut. Et donc, à ce moment-là, effectivement, il a dit qu'on avait quand même un peu exagéré là-dessus. Donc, en fait, il avouait la manipulation dont il avait été le maître d'œuvre pendant 2 années.
Et dans le fond, alors ça, c'est peut-être quelque chose sur lequel même Arthur de Vatrigan pourra rebondir, mais quelque chose qui est certain, c'est que on subit toujours aujourd'hui, et de manière assez importante d'ailleurs, les conséquences du passage de Lionel Jospin à Matignon, et puis également de l'alliance, enfin du PS et du RPR à l'époque, contre le Front National. Dans le fond, Lionel Jospin, c'est à la fois quelqu'un qui a été, on le disait, c'est le titre de l'entretien, un petit peu un fossoyeur de la France durant son mandat, mais c'est également un des plus grands turiféraires, finalement, du front antifasciste.
Et j'ai peut-être aussi, depuis 2002, ce grand traumatisme que la gauche n'arrêtera jamais, que les gauches, pardon, n'arrêteront jamais de s'allier. Je pense que 2002 a tellement traumatisé qu'ils peuvent nous raconter toutes les salades de l'entre-deux-tours ou de la veille du premier tour et de un an avant la veille du premier tour. La gauche s'alliera toujours au premier de la gauche, même s'il s'appelle Mélenchon. Le traumatisme de 2002 est tellement fort pour eux que là, on pourra compter dessus. Quoi. C'est ce qui est fascinant. Mais après, votre titre d'émission est excellent. C'est vraiment le fossoyeur de la France. Je ne suis pas si certain qu'un Premier ministre ait déjà fait autant de mal. Mais surtout, je veux dire, c'est un cancer métastasé, quoi. C'est ça qui est effrayant, c'est qu'on voit les effets et ces effets vont être très longs et ne vont pas s'estomper aussi rapidement qu'on le pense, même après un an, après même une mandature de Bardella ou de Retailleau, de qui vous voulez de droite en France. Ça va mettre un temps de dingue. Je veux dire, en 5 ans, il nous a filé 40 ans de misère et 40 ans de tragédie. Alors, c'est vrai qu'il a ce côté sympa, comme on dit, c'est peut-être pourquoi beaucoup lui pardonnent des choses. Mais sympa, déjà, c'est pas un métier, et c'est encore moins un gage de politique. Donc, moi, je suis très agacé, parce que j'ai quand même le sentiment qu'ils vont bientôt nous le faire rentrer en Panthéon, Jospin. Et la droite va se taire, comme d'habitude. Alors que c'est quand même leur pire adversaire, pas ennemi, je dirais pas ennemi, parce que bon, c'est vraiment un terme de gauche, leur pire adversaire, et notre pire adversaire, pour nous, Français, quoi. Soit on a les mémoires courtes, soit... À la différence d'extrême-gauche, dès qu'un Français meurt, on se tait et on respecte jusqu'à pour l'éternité, même toutes les conneries qu'il a faites.
Vous avez parlé de... Arthur de Vatrigan a parlé de sympathie s'agissant de Jospin. Je ne suis pas sûr que même ça soit exact. Parce que je vais vous raconter une anecdote. Alors, j'en ai donné la primeur à une radio concurrente et néanmoins amie, mais je vais quand même la raconter ici parce qu'elle en dit long sur ça. Sur son véritable caractère et sur l'impact de sa formation trotskiste. En 1959, il est dans un foyer d'étudiants à la cité universitaire d'Antony. Et il a comme voisin, dans une chambre à côté, quelqu'un de droite qui était bien connu dans cette radio, qui était Jean Picolec, l'éditeur Jean Picolec, qui est quelqu'un de très à droite et de très ouvert en même temps. Et Jean Picolec était ami avec tout le monde, y compris avec un voisin de chambre communiste. Et c'est lui qui m'a raconté l'anecdote. Et c'est tout à fait intéressant. Picolec tombe malade. 3 jours avant un examen, il a 42 fièvres, etc. Et le copain communiste, qui n'avait pas encore son diplôme, mais enfin, bon, procure des antibiotiques, lui donne une dose d'antibiotiques, il est remis sur pied, il a son examen et tout le monde est content. Sauf Jospin, qui fonce sur le communiste et qui lui dit « Ah, tu as soigné un ennemi de classe, tu es vraiment un salaud. » Et il y a eu 10 témoins. 10 témoins. Et Picolec m'avait dit, ça m'a prouvé qu'on pouvait être ami avec tout le monde, y compris avec des communistes, mais pas avec des trotskistes.
Ouais. Et ça, c'est... Et alors justement, dans le fond, est-ce qu'il y a eu sur ce trotskisme un héritage politique concret durant son passage au pouvoir, même je pense son passage au Conseil constitutionnel où il sera de 2014 à 2019. Est-ce que Jospin en réalité a traduit son trotskisme originel de manière politique?
Je crois que, oui, alors au Conseil constitutionnel, ça, je ne sais pas du tout ce qu'il a voté ou pas voté, puisque c'est secret, mais l'héritage numéro un du trotskisme de Jospin, c'est Jean-Luc Mélenchon.
Oui.
C'est Jean-Luc Mélenchon et c'est la victoire
parce que,
de...
Donc c'est Jospin qui nomme Jean-Luc Mélenchon à l'éducation nationale.
Absolument. Alors, il est à l'éducation nationale, il le nomme, c'est son secrétaire d'État à la formation professionnelle. Mmh. Et ils sont inséparables à ce moment-là. Et ça, c'est la vieille complicité de l'OCI. C'est la vieille complicité de l'OCI, et c'est eux qui transforment l'antiracisme de originel, SOS Racisme, etc., qui est créé en 83 et qui était, ne l'oublions pas, créé pour la fameuse égalité hein, entre les nouveaux venus et les Français de souche, et qui se transforme en revendication de droits particuliers. C'est-à-dire de droits particuliers selon la religion, les origines, etc., etc. Et les listes communautaristes qui ont remporté certaines villes dimanche dernier et qui d'ailleurs chassent allègrement les socialistes et les communistes qui leur ont fait, qui leur ont constitué leur marchepied en les injuriant, parce que c'est comme ça que ça se passe. J'ai même été étonné d'ailleurs que France 2 fasse un reportage tout à fait honnête, parce que ça leur ressemble pas toujours, il y a 2 jours, sur les passations de pouvoir dans ces mairies qui sont passées à LFI. C'est insensé, on n'a jamais vu ça.
Et pourtant Lionel Jospin quand même n'a pas soutenu Jean-Luc Mélenchon sur les dernières élections.
Non, il l'a pas soutenu parce que parce qu'il était retiré de la politique, il voulait passer pour un vieux sage et voilà.
Et il soutenait le Parti Socialiste.
Oui.
Alors finalement, c'est Lionel Jospin, peut-être la dernière chose qu'il a faite publiquement, c'était en 2024, soutenir le nouveau Front Populaire. Dans le fond, est-ce que le nouveau Front Populaire, c'est sa gauche plurielle en réussie?
Peut-être. Peut-être.
Merci beaucoup Éric Branca d'avoir été avec nous ce matin. En tout cas, merci d'avoir réussi à dresser ce bilan de Lionel Jospin. Bilan lourd de conséquences, on l'a compris. On n'a pas pu tout aborder malheureusement. Il y aurait encore eu bien des choses à dire. On n'a pas parlé du Pax aussi que Lionel Jospin fait voter, je crois, en 2001 face à toute... face au front catholique qui se met en place en face. Jospin, le fossoyeur bien des choses, notamment de la France. Merci d'avoir été avec nous, Éric Branca, ce matin. Merci à vous aussi, Arthur de Vatrigan.
Merci.
Et
7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite avec Alexandre de Galza.
Chers auditeurs, merci d'être avec nous ce matin. Il est 8h13. Je rappelle que dans quelques instants, Mathilda du collectif Nemesis fera sa chronique. Également, par la suite, Maëlys Clausel animera un entretien à propos de la Suède qui commence à mettre en place le début de la remigration. À 9h05, ce sera Jean Messia qui sera avec nous. Mais tout de suite, un bref rappel des titres de l'actualité avec Maëlys Clausel.
Yael Braun-Pivet a jugé regrettable la minute de silence rendue à Quentin Derenque, compte tenu du personnage, selon ses mots, une prise de position qui interroge au regard d'autres hommages parlementaires comme celui rendu au délinquant Nel Merzouk en 2023. Dans l'affaire de Crépol, la justice refuse à nouveau que la griffe se constitue partie civile et ne retient toujours pas de mobile raciste anti-blanc malgré certains témoignages flagrants. Mais l'association ne lâche pas et annonce un nouveau pourvoi. L'affaire est donc une nouvelle fois renvoyée devant la Cour de cassation. Et enfin, le rappeur congolais Gims a été placé en garde à vue dans une affaire de blanchiment en bande organisée. Avis à Macron qui n'hésitait pas à poser à ses côtés lunettes de soleil sur le nez il y a quelques temps. Et nous célébrons ce 26 mars Sainte-Larisa et Saint-Ludger.
Merci beaucoup Maïlys.
Ligne droite.
Et nous recevons tout de suite Mathilda. Mathilda, bonjour.
Bonjour Alexandre.
Je rappelle que vous êtes cofondatrice et porte-parole du collectif Némésis. Alors de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui ?
Eh bien aujourd'hui, je vais vous parler de Tariq Ramadan. Donc c'est une de ces histoires qui laisse un arrière-goût désagréable et presque ironique, j'ai envie de vous dire. Puisque Tariq Ramadan, on le connaît bien, c'est un islamologue médiatique, le petit-fils du fondateur des Frères musulmans, l'intellectuel qui remplissait les amphithéâtres et les plateaux, et celui qui se présentait comme un penseur moderne, capable de réconcilier l'islam avec l'Occident. Pendant des années, il a parlé de dignité, de justice, de spiritualité, avec l'assurance tranquille de celui qui détient une morale supérieure. Morale qu'il s'était proposé d'offrir généreusement à l'Occident décadent. Mais voilà, à partir de 2017, le décor s'effrite. Des femmes ont commencé à parler et elles ont raconté comment des rencontres, en marge de ces conférences, avaient tourné au cauchemar. Violence, emprise morale et viols répétés. En France, il était jugé pour 3 de ces affaires. Des faits qui s'étalent entre 2009 et 2016. Je précise en France, car ce n'est malheureusement pas une première. En Suisse, le tribunal fédéral a déjà confirmé sa condamnation pour un viol commis en 2008 à Genève. Mais Tariq Ramadan n'a pas voulu se présenter au procès. Il a invoqué sa sclérose en plaques, ses hospitalisations à Genève. La justice a demandé une expertise médicale. Son état permettait de comparaître, pas de poussée grave. Alors, le procès s'est ouvert le 2 mars à Paris, par défaut et à huis clos pour protéger les plaignantes. 3 semaines de débat, le banc de l'accusé restait désespérément vide. Ses avocats ont fini par quitter la salle, scandalisés par ce qu'ils ont appelé une parodie. On imagine l'homme habitué à dominer les débats, soudain très discret lorsqu'il s'agit de répondre de ses actes devant la justice. Mardi dernier, l'avocat général a réclamé 18 ans de réclusion criminelle pour extrême gravité des faits. Ce mercredi 25 mars, la cour a suivi 18 ans, coupable de viol et viol aggravé. Mandat d'arrêt, interdiction définitive du territoire français une fois la peine purgée. Tariq Ramadan insistait particulièrement sur le voile, qu'il présentait comme une nécessité morale. La pudeur et la modestie étaient pour lui des piliers. Le voile protégeait, disait-il, non seulement la femme, mais surtout l'homme, le plus faible face à la tentation. La femme devait donc se couvrir pour ne pas devenir source de débauche. Une tenue trop visible, un parfum, un geste, et elle s'écartait déjà du droit chemin. Ce même homme, condamné pour viol répété, semblait tenir ce discours parce qu'il était incapable de se retenir lui-même. Visiblement, une femme non voilée représentait pour lui une tentation insurmontable. Drôle de moraliste. Rappelons tout de même que les Occidentaux, aussi décadents soient-ils, n'ont pas besoin de couvrir les femmes pour s'empêcher de les violer. La majorité des hommes y arrivent sans imposer la contrainte de dissimuler son corps de l'espace public à l'autre moitié de la population. Il y a quelque chose de tristement révélateur dans cette trajectoire. Tariq Ramadan incarnait une certaine vision de l'islam, celle des frères musulmans, qui placent souvent la femme dans un rôle subalterne. Corps à protéger, à contrôler, à voiler, à maintenir dans une pudeur stricte, censée préserver l'ordre moral. Pourtant, derrière les discours sur la modestie et la vertu, on retrouve trop souvent cette même logique de domination masculine. Cette idée que le désir de l'homme prime et que le consentement féminin reste négociable ou tout simplement ignoré. Le prédicateur qui dénonçait l'Occident décadent et ses mœurs libres se retrouve aujourd'hui rattrapé par sa réalité, celle dans laquelle les femmes ne sont que des objets de soumission, incapables d'autre chose que de servir les hommes. À Christelle, à Enda Ayari et à cette troisième femme dont le prénom reste protégé, et à toutes celles qui n'ont pas encore pu parler, vous avez affronté l'incrédulité, les menaces, les campagnes de diffamation, les accusations de mensonges et de manipulation. Et vous avez tenu, vous avez porté la parole des victimes face à un homme habitué à être écouté sans être contesté. Ce qui importe ce matin, c'est que la justice, même rendue en l'absence de Tariq Ramadan, a tranché. Ce verdict, aussi tardif et imparfait soit-il, car oui, 18 ans, ce ne sera jamais suffisant pour rendre à ces femmes ce qui leur a été volé, rappelle au moins une chose. Personne, pas même celui qui se drape dans la robe du guide spirituel, n'est au-dessus des lois qui protègent la dignité humaine.
Merci beaucoup Mathilda pour cette charge contre Tariq Ramadan et cet hommage aux victimes. Je laisse désormais la parole à Maïlys Clauzel pour son entretien, son débattons-en.
Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. En faisant un don à Radio Courtoisie, vous lui garantissez une indépendance totale et la liberté de ton que vous ne trouvez pas ailleurs. Rendez-vous dès maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.
Ligne droite, débattons-en.
Et pour ce débattons-en, chers auditeurs, nous recevons Pascale Pierrat, députée européenne du Rassemblement national depuis 2024, haut fonctionnaire et ancien juge d'instruction. Bonjour madame, est-ce que vous nous entendez bien ?
Bonjour Maëlys, je vous entends très bien. Bonjour à vos auditeurs.
Eh bien écoutez, parfait. On est une nouvelle fois ravis de vous recevoir à notre antenne. Alors effectivement, Madame Pierrat, nous allons évidemment parler de la Suède, ce pays scandinave qui met en avant du moins un projet de loi qui prévoit d'expulser les migrants qui ne mènent pas une vie honnête. Alors effectivement, pendant tout cet entretien, nous allons déterminer ce qu'est exactement une vie honnête, puisque évidemment la notion peut être assez variable en fonction des gens. Mais vous, déjà à première vue, qu'est-ce que ça vous inspire ?
Je crois qu'il faut faire un rappel historique et je pense que les auditeurs de Radio Courtoisie sont suffisamment cultivés pour avoir d'eux-mêmes fait la relation. Vous savez, la Suède fait partie de ces pays luthériens dans lesquels à la fois l'intérêt général est très important. Et en même temps, l'État est providence, c'est-à-dire qu'il fournit beaucoup. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il y a plusieurs décennies, les pays scandinaves, dont la Suède, ont été particulièrement accueillants à l'égard de l'immigration. Parce que leur impensé, si vous voulez, historique, c'est celui-là. En contrepartie, ces pays demandent une intégration totale, y compris à leurs propres citoyens, une participation à la vie de la communauté et un engagement auprès de la communauté qui est total. Si vous voulez, c'est la jonction de ces deux concepts en fait qu'il faut bien comprendre pour pouvoir expliquer ce concept de bonne conduite. Mmh. Voilà, ça s'inscrit dans cette tradition-là.
Alors effectivement, vous l'avez dit, les pays scandinaves ont été accueillants, c'est le moins qu'on puisse dire. On se souvient tous, notamment en 2015, de ce slogan qui littéralement a été la figure de proue, entre guillemets, en Suède et dans d'autres pays scandinaves, et qui s'intitulait « Welcome Refugees ». Voilà, ce slogan assez évocateur. Est-ce qu'on n'a pas là, finalement, le résultat d'un échec complet de cette politique, et surtout de la politique d'intégration de l'immigration en Suède, puisque manifestement, aujourd'hui, les Suédois semblent repousser cette richesse.
Bien entendu, vous avez raison. Nous-mêmes, dans les pays plus latins et même en France, nous étions particulièrement surpris par ces slogans de bienvenue, en effet. Je ne peux pas dire aux Suédois qu'ils se sont trompés, compte tenu de ce que je vous ai indiqué, à savoir que c'est vraiment dans leur tradition. Donc, c'est ainsi. Ce que je dirais, c'est que depuis quelques années, ils ont l'honnêteté de se dire que ça ne marche pas chez eux. Oui. Voilà. Et ils ont réintroduit, on va parler de la loi là, qui s'apprête à être discutée au Parlement suédois, et donc ils réintroduisent un certain nombre de critères depuis plusieurs années, depuis l'arrivée au pouvoir en 2022 de la coalition de droite, en fait, pour durcir considérablement leur politique migratoire. Et je regardais les chiffres hier, on peut dire que cet effort a déjà porté chez eux, puisque en 2025, ils ont eu une baisse de 30% des demandes d'asile, ce qui est le niveau le plus bas depuis 40 ans. Voilà. Donc, pour résumer, on peut dire que cette politique de bienvenue massive est évidemment une erreur, mais il faut absolument souligner l'honnêteté que les Suédois, comme les Danois d'ailleurs, qui est un pays que je connais également, l'honnêteté qu'ils ont à pouvoir posée que ça ne marche pas et qu'il faut faire machine arrière. Il n'y a pas de honte, il n'y a pas d'acquis quand l'acquis est mauvais. Voilà.
Alors effectivement, il faut faire machine arrière, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, Pascal Pira. Et à ce propos, Johan Forssell a été carrément clair, hein, avec les Suédois. Il a énoncé certaines conditions, justement, qui pourraient illustrer le fait qu'un immigré ne mène pas une vie honnête. Alors je vais vous les lister pour vous également, pour les auditeurs qui n'auraient pas été au courant de cette nouvelle. Alors, si on ne paye pas ses dettes, si on ne respecte pas les décisions des autorités, si on fraude les aides, ou si encore on obtient un titre de séjour de manière frauduleuse, eh bien, ça réduirait donc le migrant à le fait qu'il vive finalement une vie malhonnête. Hein. Voilà, on va prendre le contraire. Est-ce que pour vous, ces conditions énoncées vous paraissent légitimes justement pour finalement déguerpir du territoire?
Alors, il y a d'autres conditions. Hein. Il y a le fait de travailler illégalement, oui. Il y a le fait d'avoir des comportements antisociaux, même s'ils ne sont pas pénalement répréhensibles. Il y a évidemment la question de l'ordre public également, donc il y a un certain nombre de critères. Ces critères mènent à ce que les Suédois appellent la bonne conduite qui est exigée, qui va être exigée désormais en matière d'octroi et de retrait des titres de séjour. Voilà, c'est très exactement sur ce point-là que les choses vont se discuter. Alors, la question, vous remarquez que tous ces items, la plupart d'entre eux en tout cas, sont des items qui ont un rapport avec le système social. Mmh. Et là encore, ça fait référence à ce que le pays a construit en termes d'État-providence. Voilà. Est-ce que ça me paraît bon ? Je vais vous faire une réponse de juriste, qui est d'ailleurs une des objections, hein, qui est faite en Suède, c'est la question de la définition de l'ensemble de ces critères. Enfin, tout le monde pourra comprendre qu'à partir du moment où on ne paye pas une dette, la question c'est de savoir quel est le montant de la dette et à qui on la doit.
Effectivement.
Tout le monde pourra comprendre que le non-respect des décisions, par exemple le non-paiement des amendes, la question est de savoir de quelle amende il s'agit, est-ce que ça a été plusieurs fois le cas, etc., etc. Vous voyez, il y a un certain nombre de critères comme ça, bon, qui sont, enfin, les items sont assez évanescents, il faut bien le reconnaître. Alors, parallèlement, on peut comprendre pourquoi ils ne peuvent pas être tout à fait précisés, parce que précisément l'autorité administrative qui va délivrer ou enlever ces titres de séjour a besoin d'examiner le cas par cas. Elle a besoin d'une marge de manœuvre. Donc, on peut comprendre également qu'elle a besoin d'avoir une latitude dans la décision pour pouvoir apprécier. Voilà. Voilà. Ça, c'est le débat tel qu'il se pose actuellement. Étant observé que de droite comme de gauche en Suède actuellement, personne, d'une manière générale, ne se pose la question de la bonne conduite en elle-même. Ça, c'est quelque chose qui est acquis. D'ailleurs, en vérifiant, je me suis rendu compte que c'était un concept qui existait avant 2005 en Suède et qui est réintroduit et renforcé en quelque sorte en la matière aujourd'hui. Mais voilà ce qu'il en est. Alors, voilà, ma réponse est la suivante. On ne peut pas comparer tous les systèmes juridiques. Mmh. Alors, dire que le nôtre, le système français est insatisfaisant à cet égard, on est parfaitement d'accord. Je ne sais pas si dans un pays comme le nôtre, avec notre tradition juridique, on pourrait tout à fait appliquer la question de la bonne conduite.
Oui, alors effectivement, vous l'avez dit, le terme juridique en France, c'est peut-être pas le plus satisfaisant, c'est clair, hein, malheureusement, on le sait tous, surtout sur Radio Courtoisie. Mais c'est vrai qu'en France, on nous avance très souvent le fait que, si on ne peut pas envoyer X ou Y immigrés chez eux, c'est parce qu'il y a toujours je ne sais combien de rouages qui font littéralement barrage, finalement, à tout ça. Et quand on regarde justement le cas de la Suède, on voit qu'il y a quand même une certaine dose de volonté politique, en réalité. Est-ce que ce n'est pas plutôt, quand même, malgré tout, la volonté politique qui, en France, n'est manifestement pas présente, à l'inverse de la Suède, là où le renvoi des immigrés chez eux est complètement voulu?
Alors, vous avez raison, mais je vous dis, il y a deux choses. Évidemment, à l'origine de tout, il y a la volonté politique. Mmh. Ça, c'est une évidence. Mais il y a aussi le carcan du droit européen. Hein, je dis carcan à dessein, puisque c'est un certain nombre de règles européennes qui s'imposent en France et en Suède aussi d'ailleurs, qui nous empêchent d'avoir la main sur notre politique migratoire. Alors, nous, les États-nations, ont la main sur un volet de décision qui relève encore de l'appréciation de chaque État, mais de moins en moins, Donc, le problème, il est là. Et c'est la raison pour laquelle, au Rassemblement national, nous avons très, très bien compris la situation dans laquelle nous nous trouvons. C'est la raison pour laquelle, une fois arrivés au pouvoir, notre première mesure sera de lancer une consultation par référendum pour faire revenir le droit français, notamment en matière migratoire, avec une valeur prédominante sur le droit européen. Faire revenir le droit français au sommet de l'échelle de la règle qui doit s'appliquer. C'est ça qui est fondamental, en fait. La volonté politique, vous savez, il y a de plus en plus de pays en Europe où on voit qu'elle émerge quand même, parce que on ne peut plus cacher les réalités. Les gens voient ce qu'ils voient. Hein. Les conséquences en termes de modification des bassins de vie, modification des usages, délinquance, etc., etc. Enfin, ça, en France et en Europe, les populations font ce constat, et je pense que de plus en plus, les politiques entendent ce message et le portent. Bon, mais il y a aussi des règles à appliquer. Et le fait est que, je vais vous donner un exemple très simple. En 2003, il y a eu une directive européenne qui s'impose toujours et qui pose le principe de non-discrimination. Bon, ça veut dire que si vous vouliez rendre votre pays moins attractif, par exemple en pratiquant la préférence nationale sur les aides sociales, sur le logement, etc., etc., bon, eh bien, ça, vous risquez, si vous mettez en œuvre de telles mesures, de vous heurter à la directive qui pose la non-discrimination. Il y a des jurisprudences qui sont tout à fait constantes en la matière. Bon, donc, la solution, c'est vraiment la primauté du droit national, de sorte que nous puissions à nouveau faire comme la Suède, introduire des critères d'appréciation qui soient plus strictes, sans être tenu par notre carcan. Parce que vos auditeurs le savent très bien, vous accueillez qui vous voulez dans votre salon. Eh bien, un pays, c'est pareil, vous accueillez qui vous entendez accueillir.
Alors effectivement, vous l'avez dit, Pascal Pira, c'est une phrase qui illustre très bien la situation. On accueille qui on veut dans notre salon, c'est clair, c'est nous qui fixons les règles, même si la France n'a pas l'air véritablement d'avoir compris cette notion. Mais bon, hein, voilà, on verra bien. Mais effectivement, hein, au cœur de ce projet de loi, vous savez, ça fait quand même couler beaucoup d'encre hein, depuis qu'il a été mis en avant. Et effectivement, il y a toujours des ONG de gauche, notamment, qui ramènent leurs fraises un peu à tout va et qui parlent forcément d'une atteinte à l'égalité de traitement et d'un dispositif trop flou. Alors, est-ce que pour vous, ce projet pourrait manquer d'éthique ou alors est-ce que finalement, c'est tout à fait en droit de la Suède de faire ça ?
Ah bah vous savez, moi, je suis très souverainiste. Hein. Alors, personnellement, les Suédois font bien ce qu'ils veulent chez eux. Voilà. Et je ne me permettrai pas... sur la question des ONG, c'est très exactement ce que je vous indiquais. En fait, elles soulèvent le critère de discrimination éventuelle. Ouais. Et elles le font parce que c'est dans leur grille de lecture. Voilà. Parce que c'est dans la grille de lecture dont on nous a assénés depuis des années, en fait. Voilà. Et ça, il faut s'en défaire. D'une manière ou d'une autre, il faut s'en défaire.
Il y a un terme qui revient très souvent dans le débat public, Pascal Pira, c'est celui de la remigration. Il est très souvent employé par le camp identitaire notamment. Est-ce que là, avec donc ce que la Suède souhaite mettre en place, on n'assiste pas finalement aux prémices de cette remigration qui littéralement en fait est basée sur une certaine charte de conditions pour expulser véritablement les migrants et qui finalement viendrait contrer tout ce discours qu'on entend d'ailleurs pas mal à droite aussi, chez notamment ceux qui se compromettent un petit peu, qui expliquent justement que ça serait tout bonnement impossible, que c'est une utopie. Finalement, en fait, avec une certaine dose de critères, on remarque que, en fait, si, c'est possible.
Oui, alors je ne sais pas s'il faut employer ce mot-là, parce qu'en réalité, juridiquement, ça reste des éloignements, des expulsions, en fait, et qui sont des décisions individuelles, qui s'appliquent non pas à un groupe de personnes, mais à une personne individuellement. Bon, maintenant, ce qui est vrai, c'est que si vous appliquez des critères qui sont fermes, évidemment, vous êtes amené, d'ailleurs, c'est ce qu'a vu la Suède, hein, l'année dernière, vous êtes amené à avoir un taux d'expulsion qui est plus important. Il faut voir que ils ont également augmenté de 60% l'année dernière les retours volontaires ou forcés. Bon, voilà, bah ça, c'est la mise en œuvre d'une politique. Alors, s'agissant des retours volontaires, ils disent eux-mêmes, ils ont mis plus d'argent en termes de subventions. Bon, voilà. Et s'agissant des retours forcés, eh ben, écoutez, ils ont su avoir des politiques diplomatiques adéquates avec les pays dont étaient originaires leurs immigrés. Voilà. Donc, tout ça, c'est évidemment une question de volonté politique, à condition de détenir les prérogatives. Voyez?
Justement, vous avez tout à l'heure donné ce chiffre qu'il y avait moins 30% de demandes
Oui.
d'asile, notamment en Suède. Est-ce que ce genre de projet de loi, finalement, pourrait faire revenir les immigrés sur leur choix à notamment le fait de venir en Suède, en France ou dans d'ailleurs tous les pays européens? Finalement, ce genre de projet de loi, on voit bien que ça fait
Mais c'est le
revenir sur
but.
leur choix les immigrés.
Ah ben c'est le but, c'est d'ailleurs un homme politique, je me souviens plus si c'était le Premier ministre qui disait que le but du jeu est de rendre la Suède moins attractive. Voilà. À partir du moment où vous savez que si vous demandez un titre de séjour en dehors des conditions formelles qu'il faut remplir, hein, je veux dire parler la langue, avoir des ressources suffisantes, justifier d'un travail, etc., etc. Si vous savez qu'une fois sur place, il faut bien se tenir et surtout bien s'intégrer. Bon, bah écoutez, celui qui sait qu'il ne pourra pas faire l'effort fera l'économie du voyage. Voyez? Il y a un autre pan qui est intéressant d'ailleurs dans cette loi, c'est que, et là encore, ça rappelle la tradition luthérienne de la Suède, il est indiqué que chaque personne doit participer à son intégration. C'est-à-dire que l'immigré, va participer activement, c'est le terme qui est choisi d'ailleurs, à son intégration. Vous voyez, il est plus question d'octroyer un certain nombre de devoirs sans rendre acteur lui-même la personne qui en bénéficie. Et ça, je trouve que c'est très intéressant comme concept parce que ça donne du sens vraiment à ce que doit être l'intégration. Comprenez? L'intégration, ce n'est pas seulement bénéficier matériellement des mêmes prestations que les nationaux. L'intégration, c'est autre chose. C'est un cheminement qui est personnel. C'est une adhésion aux valeurs du pays. C'est une adhésion à son mode de vie également. Comprenez? Donc, je trouve qu'exiger cela est quelque chose de très intéressant. En contrepartie de quoi, la Suède, quand elle accepte quelqu'un, lui fait bénéficier d'un certain nombre de prestations. Mais c'est en contrepartie.
Effectivement, puis l'intégration, finalement, c'est simplement du bon sens avant tout. Voilà, je pense que les mesures ne sont pas trop farouches. Hein, on ne demande pas non plus la lune. Alors, Pascal Pirat, tout à l'heure, vous avez parlé du droit européen. Vous qui êtes eurodéputée, vous devez certainement en être experte. En tout cas, c'est ce que j'imagine. Justement, donc, concernant ce droit européen, est-ce que, selon vous, finalement, ce genre de mesures, si jamais on arrivait à les faire venir en France, enfin, en tout cas, à les faire émerger plutôt. Est-ce que, avec l'Union européenne, en étant dans l'Union européenne, est-ce que c'est possible?
Alors, c'est la solution présentée par le Rassemblement national depuis des années maintenant, c'est le référendum. C'est-à-dire qu'il faut redonner à l'État ses pleines prérogatives dans le domaine de l'immigration. Et pour ça, il faut que ce soit validé par ce qui, dans notre Constitution, est vraiment le cœur de l'organisation de notre pouvoir, c'est-à-dire la souveraineté populaire. Voilà. Et à l'issue de ce référendum, on redonnera la primauté au droit français, on reprendra nos prérogatives en la matière, et dès lors, nous pourrons organiser les choses autrement en la matière. Voilà. Donc, oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Alors, ce n'est pas la solution du Frexit, hein, j'en conviens. Mais en tout cas, c'est une solution qui me paraît juridiquement tout à fait tenable, envisageable, et qui me paraît être la seule voie pour que les choses se déroulent rapidement, en fait. Parce que n'oubliez pas que l'attente des électeurs du Rassemblement national est absolument énorme, et à juste titre, compte tenu de l'état de ce pays. Donc, l'introduction d'un référendum qui redonnerait la primauté au droit français en matière migratoire, comme nous l'avons dit, eh bien, ça, c'est quelque chose qui est quand même plus facile à mettre en œuvre qu'un Frexit dont les négociations durent 2 ans, vous voyez.
Oui, donc en fait, si on comprend bien ce que vous dites, finalement, il ne faudrait pas donc de Frexit, mais il faudrait plutôt des réformes au sein même de l'Union européenne qui rendrait finalement le droit français à la France.
Il faut à la fois utiliser l'arsenal qui est le nôtre. Le référendum, ce n'est pas quelque chose d'européen. C'est un levier français que nous pouvons, nous, utiliser dans la marge de manœuvre qu'il nous reste en matière de décision, si vous voulez. Après, au sein même des institutions européennes, comme je vous le disais tout à l'heure, on voit monter au gouvernement des pays européens de plus en plus de politiques qui partagent nos constats. Et donc, il est parfaitement normal d'envisager à ce moment-là des renversements de majorité, comme c'est d'ailleurs, ça a déjà d'ailleurs été le cas depuis le début de notre législature à plusieurs reprises. Donc ça, c'est tout à fait envisageable de renverser un certain nombre de décisions avec des majorités de droite qui veilleront à ce moment-là à évidemment laisser aux États-nations ce qui doit être laissé aux États-nations, sans préjudicier après des coopérations qui sont importantes entre États, naturellement, puisqu'il faut des coopérations, on ne va pas se mettre à vivre en autarcie. Simplement, préserver et garder tout ce que nous pouvons garder en tant qu'État-nation.
Oui, effectivement, il faut préserver cela, et les Français aussi l'exigent, hein, de préserver la France authentique telle qu'elle l'a toujours été. C'est pas pour rien que un grand nombre de Français aujourd'hui votent pour le Rassemblement national, c'est aussi parce que il y a un certain rejet de cette immigration de masse. Est-ce que pour vous, Pascal Pirat, et ce sera la dernière question puisqu'il nous reste plus que 2 minutes 30, est-ce que pour vous, un projet de loi comme ça est littéralement l'une des priorités pour la France, mais aussi pour l'Europe entière?
Ah ben oui, non, mais de toute façon, on voit bien que ce continent part à la dérive en termes migratoires, rien n'est contrôlé. Alors, pendant des années, ça a été mis sous le tapis parce que la presse n'en parlait pas, parce que personne ne voulait en parler, il y avait une omerta absolue, hein, là-dessus. Mais enfin, si vous voulez, les choses prennent une telle proportion que maintenant, c'est introduit dans le débat public. Je vous rappelle que c'est le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice qui, eux-mêmes, on fait une relation entre les taux de délinquance et les taux d'immigration. Bon, on sait aujourd'hui quels sont les taux infraction par infraction. On sait quel est le taux d'étrangers emprisonnés en France. Bon, donc, maintenant, si vous voulez, on a passé le stade du déni. Les gens voient ce qu'ils voient, ils ont raison de le voir, et les politiques sont obligés de s'emparer de ces constatations. Ils sont obligés parce que les Français ont une attente immense à cet égard.
Effectivement, les Français ont une attente immense à cet égard, et c'est pour ça qu'il faut passer à l'action. On espère que ça sera le cas pour les prochaines échéances électorales, notamment la présidentielle, effectivement, que nous allons suivre de très près. Merci beaucoup, Pascal Pirat, pour votre intervention à notre antenne. Nul doute que nous vous retrouverons très bientôt. Je rappelle que vous êtes députée européenne du Rassemblement national depuis 2024, haut fonctionnaire et ancien juge d'instruction. Merci beaucoup et à très vite.